Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Apolline Matin. On est vendredi, on est ensemble jusqu'à 9h. Élise Dangean, Géraldine Demory, Pierre Rondeau. Bonjour toute l'équipe, ça va?
Bonjour Mathieu.
Et vous, au 32-16, surtout n'hésitez pas à prendre la parole ce matin. Lundi, c'est la rentrée. Hein. Vous retrouverez Apolline en direct pour sa rentrée. Et en attendant, c'est votre matinale de l'été. Très bon réveil à toutes et à tous. L'info de la soirée d'abord. Un recul du gouvernement qui renonce à doubler le plafond des franchises médicales. La ministre de la Santé l'avait annoncé sur RMC en juillet. Et face au tollé, elle revoit sa copie. Alors, franchise, elle devait passer de 100 à 200 euros. Vous savez, c'est le reste à charge sur certains soins, médicaments, consultations. On va découvrir un calcul savant désormais basé sur l'inflation. Bref, ça n'a pas passé à 200 euros, mais 130, 150, plus, ça reste à préciser. Bonne nouvelle ou pas, cette annonce avait mis nombre d'entre vous en colère pendant l'été, les patients atteints d'affections de longue durée en particulier. Est-ce que vous êtes soulagés? Est-ce que vous restez méfiants? Patients, comme profession médicale, on vous attend. En même temps, des économies, il va bien falloir en faire. Avec la rentrée, on va retrouver les débats budgétaires, les économies à réaliser, l'urgence pour les députés se mettre d'accord sur un budget 2027. Sans budget, en cas de loi spéciale, comme l'an dernier, l'inspection générale des finances alerte, on va dans le mur. On va reparler des pensions de retraite et autres pistes d'économie. Et les taux d'intérêt de la dette qui explosent en ce moment. Bref, sur le front éco, est-ce qu'on est inquiet pour la rentrée? On va poser la question à l'économiste Nicolas Bouzou. C'est mon invité à 8h40. Ce matin, on va parler, budget aussi, de la rentrée de la Ligue 1. C'est ce week-end. On en est où de la Ligue 1?
Ça,
c'est
ça commence ce soir, Marseille-Strasbourg.
Marseille-Strasbourg, ça c'est pour le sportif. On va voir comment va notre Ligue 1 avec vous, Pierre Rondeau, tout à l'heure. En attendant, Marseille-Strasbourg, la reprise. Vous voyez des titres qui disaient le PSG déjà champion. Pas trop tôt les amis. On parle de foot avec vous au 32-16. Et puis le chiffre du jour, c'est le salaire des profs. 3000 euros net en moyenne, tout compris. Alors est-ce que c'est assez? Franchement, vous êtes prof, racontez-nous. Vous aimeriez le devenir? Est-ce que ça vaut le coup? Vous prenez la parole ce matin en direct. Et puis le débat, la polémique, ça ce sera juste après le journal de 7h. Patrick Bruel qui maintient ses dates de tournée de l'automne. Il y a des maires qui disent non, on ne veut pas lui dans notre ville. Il y a Oser le Féminisme qui dit on sera là devant chaque salle de concert. Alors de quelle manière? On va leur demander puisque c'est nos invités à 7h10, l'association Oser le Féminisme. 6h59, Géraldine Demory, c'est l'heure de la météo.
Et on surveille les orages pour aujourd'hui. Les orages sur le sud-est avec cette vigilance orange sur le Var, les Alpes-Maritimes et les deux départements Corse. Mais c'est vraiment tout le sud-est qui est concerné par ces orages. Les Bouches-du-Rhône aussi où on a beaucoup de pluie, où on a des coups de tonnerre, grosse activité électrique, risque de grêle. Et puis les fortes rafales de vent puisqu'on attend notamment sur la Corse des rafales jusqu'à 120 km par heure. C'est globalement un temps agité pour aujourd'hui sur le pays avec ces averses orageuses sur le sud-est. Mais pas seulement, il y en a aussi sur le sud. Il y en a aussi vers la Manche, c'est un peu plus calme, vers le Poitou-Charente, vers le centre, avec de belles éclaircies. Et puis les températures baissent encore, ça y est, on passe un petit peu en dessous des normales de saison cet après-midi. Il fera 20 degrés à Lille, 23 à Paris, on aura 25 à Lyon, 26 à Bordeaux, 29 à Marseille. Ce week-end, ce sera un temps calme et plutôt bien. On ne va pas exagérer, mais on est un petit peu en dessous des normales et il fera beau ce week-end.
Très bon réveil à toutes et à tous, vous écoutez RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal de 7h, c'est le journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un jeune de 23 ans tué en bas de chez lui par un commando armé.
Assassinat d'une rare violence près de Nancy, les auteurs toujours en fuite. Reportage dans ce quartier populaire dès le début de ce journal. Le rétropédalage du gouvernement sur les franchises médicales. La ministre de la Santé promettait sur RMC de doubler le plafond. Elle renonce face à l'opposition de nombreux patients. Et puis, il ne vous faudra qu'un seul abonnement cette année pour regarder la Ligue 1, ça n'était pas arrivé depuis 2008. Reprise du championnat ce soir avec OM Strasbourg.
Le parquet de Nancy ouvre une enquête pour assassinat après la mort très violente d'un jeune de 23 ans.
Abattu sous les yeux de sa mère avant-hier soir à Maxéville, c'est près de Nancy, abattu devant chez lui par un commando armé, toujours activement recherché par la police. Les motifs sont encore inconnus, dit le procureur adjoint. Un assassinat qui a plongé ce quartier populaire dans la peur, Lucille Pascanet.
En bas de l'immeuble, les traces de la fusillade sont toujours visibles.
Les impacts de balles, vous voyez ici, ici et là.
Christophe Chosereau est le maire de Maxéville.
Donc là, ça a tiré très très fort.
La victime de 23 ans était connue de la justice et de la police. Selon le maire, elle venait de rentrer de vacances quand elle a été prise pour cible.
C'est ce qu'on appelle un règlement de compte. Une berline noire occupée de trois individus cagoulés est arrivée dans le quartier aux alentours de 21h. Ils ont tiré de partout, ils l'ont blessé, il est remonté chez lui. Il est décédé dans son appartement devant sa mère. C'est donc une zone d'une violence assez rare. On n'a pas l'habitude dans ce quartier-là.
Tous les habitants pensent à la famille endeuillée, notamment à la mère et aux trois petits frères de ce jeune homme apprécié. Ils sont nombreux à être inquiets.
Là, c'était vraiment devant chez moi.
Tigane berce un bébé dans une poussette.
On a envisagé de partir parce que là, depuis, on va dire 1-2 ans, c'est chaud, quoi. Quand on a des jeunes enfants, on veut pas qu'ils grandissent dans ça, quoi.
Patricia, elle aussi, a entendu les coups de feu et elle en tremble encore.
On a vraiment peur parce qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence. En pleine journée, ça peut très bien arriver quand on va faire des courses ou se promener.
Pour rassurer les riverains, le quartier est sous sécurisation policière renforcée. Elle devrait durer plusieurs jours.
Un reportage de Lucille Pascanet. Le gouvernement fait marche arrière. Le plafond des franchises médicales ne sera finalement pas doublé, mesure qu'avait annoncé la ministre de la Santé ici même sur RMC le mois dernier. Façon pour le gouvernement de trouver des économies en augmentant donc le montant maximum de ce reste à charge en pharmacie ou en consultation médicale. La ministre Stéphanie Rist annonce donc y renoncer, Romain Cluzel.
Cela concerne la participation entre 1 et 2 euros que nous payons à chaque achat d'une boîte de médicaments ou lors d'une consultation avec un médecin. Pour éviter de pénaliser par exemple les personnes atteintes d'une maladie chronique, cette participation ne peut pas dépasser 50 euros par an pour les actes médicaux et 50 euros par an pour les achats de médicaments. La ministre de la Santé souhaitait initialement doubler ce plafond, mais cette annonce a fait bondir les associations de patients. Stéphanie Rist le reconnaît, notre choix n'a pas été compris et a pu apparaître brutal. La ministre souhaite toujours augmenter ce plafond, mais en l'indexant sur l'inflation depuis 2005. Le montant n'avait pas changé depuis cette date. Selon nos calculs, le nouveau plafond avoisinerait donc les 70 euros. Le ministère de la Santé n'a pas confirmé ce chiffre.
Alors, est-ce que ça vous rassure ? Dites-le nous au 32-16 ce matin, parce que ça a été l'objet cet été sur RMC de moult débats, que ce doublement de la franchise médicale. On sera à 7h40 tout à l'heure avec Catherine Simonin de France Asso Santé, fédération qui regroupe plusieurs associations de patients. Les patients, notamment les affections de longue durée, on vous attend ce matin au 32-16.
Le budget de l'État qui inquiète l'inspection générale des finances. Dans son rapport rendu au gouvernement, elle indique qu'un blocage entraînerait des risques majeurs pour la France, des retards sur les programmes d'armement, le blocage de certaines aides pour les agriculteurs ou encore le gel de chantiers qui mettrait en difficulté le secteur du bâtiment.
On en vient à cette alerte du SAMU de Dordogne, submergé par des appels. Pas du tout urgent.
Des certificats médicaux, des demandes de vaccins, voilà les demandes qu'a reçues cette antenne du SAMU cet été. Un nombre exceptionnel d'appels alors que les régulateurs et les services d'urgence sont déjà sous l'eau, Lou Garnier.
En Dordogne, le SAMU fait face à une cascade d'appels et certains motifs ont de quoi étonner. Didier Couteau est le directeur de l'ARS du département.
Notamment dans la journée du 15 août, on a explosé les plafonds, 800 appels. C'est 100 à 150 de plus que ce qu'on observe les autres week-ends. Des demandes pour réaliser des radios, pour lire des radios, des certificats médicaux.
Pour ce type de demande, il rappelle que d'autres interlocuteurs sont à privilégier.
Il y a aussi votre médecin traitant. Il est peut-être en vacances, mais il est peut-être rentré. Il y a aussi des bornes de consultation. Il y a aussi des pharmaciens qui peuvent vous donner un certain nombre de réponses.
Le numéro 15 ne doit être composé que lorsque l'on a un symptôme qui inquiète, selon Agnès Ricaribon. Elle est médecin urgentiste dans le Val-d'Oise et porte-parole de SAMU Urgence de France.
Les patients qui appellent pour des motifs type certificat vont prendre la place de patients qui appellent pour une urgence, avec un risque de mettre en danger ceux qui ont vraiment besoin d'une réponse rapide à une urgence vitale.
37 millions d'appels sont adressés chaque année au SAMU, un service qu'il est important de préserver, selon la porte-parole.
SFR, victime à son tour d'une cyberattaque concernant ses abonnés fibres. L'opérateur les a prévenus par courrier et annonce porter plainte. Un piratage qui pourrait venir du groupe de hackers Zero Bytes, le même qui s'en était pris au fisc et au service de l'éducation nationale. Les activités de plein air interdites en Corse jusqu'à ce soir. Vigilance orange aux orages sur l'île. Et ce matin, les autorités sont relativement rassurées. Pour l'instant, Arnaud Milman est le sous-préfet de Bastia.
On est dans le début de l'épisode au moment où on se parle, sur un épisode qui reste violent mais qui est plus échelonné que ce qu'on attendait, donc avec des rafales un tout petit peu inférieures mais qui reste important, de l'ordre de 100-120 km/h, notamment sur les crêtes montagneuses de l'île, et des cumuls de pluie qui peuvent ponctuellement être aussi importants. Nous avons à peu près 450 collègues qui sont sur le terrain, pompiers, policiers, gendarmes, agents de la collectivité de Corse, agents du parc naturel, et qui nous font remonter à la fois la situation et qui sont prêts à intervenir sur tout le territoire en cas de besoin.
Vigilance orange aux orages également dans le Var et les Alpes-Maritimes, avec une vigilance aussi pour pluie et inondations.
La messe du pape Léon XIV en septembre en France, digne des plus grands concerts, c'est presque déjà complet.
Ouais, ce sera le point d'orgue de ces 4 jours de visite en France. Une messe géante sur la place de la Concorde à Paris, et selon les informations de BFM TV, 400 000 personnes sont déjà inscrites. Amélie Lafchin, pour les dernières places, il va falloir se dépêcher.
Oui, sur les 500 000 places gratuites pour assister à la messe présidée par le Saint-Père le 26 septembre prochain, il n'en reste sur le site que 100 000, en plus des quelques milliers de places distribuées aux retardataires le jour même. En à peine 10 jours, la plateforme d'inscription en ligne a vu les compteurs s'affoler. Un engouement attendu est constaté dès la première étape du souverain pontife, un discours au Stade de France, complet en moins d'une heure. En plus de Paris, les fidèles ont toujours la possibilité de voir le pape Léon XIV gratuitement à Lourdes et à Metz les 27 et 28 septembre. Mais pour ne pas le louper, l'inscription est là encore vivement recommandée.
C'est un débat récurrent. Les bruits de la campagne, le bruit du coq, le bruit des cigales et désormais celui des cloches. Elles ulcèrent certains habitants d'un petit village de l'Aude, Fressé des Corbières. Ils ont écrit à la maire pour que les cloches de l'église ne sonnent plus la nuit. La maire refuse. Le reportage sur place de notre correspondant Jean-Wilfried Forquès.
Dans ce village des Corbières, la cloche ne fait jamais de pause. Sarah habite à côté de l'église.
À 8h, elle sonne 8 coups et 2 minutes après, elle sonne 8 coups. Et ensuite, à 9h, elle sonne 9 coups et puis après, 2 minutes après, 9 coups. Et puis après 10h, elle sonne 10 coups et puis après 10 coups. Voilà. Je comprends que ça puisse embêter.
Car elle sonne également une fois toutes les demi-heures, soit au total 334 fois par jour. D'où la colère de ce collectif anonyme qui demande à la municipalité de la supprimer. Hors de question, répond Joseph. Selon lui, cela fait partie du patrimoine communal.
Je dis que je suis né ici, que j'ai toujours entendu les cloches et que ceux qui arrivent dans le village doivent s'adapter au village, c'est pas le village à s'adapter à eux.
Et Claudine, une voisine, s'adresse directement au grincheux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la cloche n'empêche pas de dormir et ne réveille jamais. Quand on commence à l'entendre, c'est parce qu'on commence à se réveiller.
Du côté de la mairie, pas question de supprimer les cloches. Comme le tracteur qui passe ou le bruit des cigales, les cloches ne sont pas des nuisances, mais des bruits de la vie rurale, explique la mairie du village.
Le problème, c'est la nuit, hein. On est d'accord. Oui. On n'est pas en train de... Moi, j'ai un sommeil tellement profond que ça me dérange pas. J'adore ce débat. Et pour une fois, c'est pas de la faute des Parisiens. Il y a pas un Parisien qui s'est installé à côté du clocher et qui a énervé tout le monde. Bon, ça fait débat. Ça vous agace les cloches autour de chez vous, peut-être dans votre village? Dites-le nous au 32-16. Ça y est, c'est reparti. Ça, ça va faire du bruit aussi. Le retour de la Ligue 1 ce soir.
L'Olympique de Marseille ouvre le bal face à Strasbourg qu'on envoie 20h45. Reprise du championnat avec une bonne nouvelle pour suivre les matchs. Nicolas Pelletier, ils seront tous disponibles sur une seule plateforme.
Oui, pas besoin cette saison de multiplier les abonnements pour regarder la Ligue 1. Pour la première fois depuis 2008, les 9 matchs de première division seront diffusés sur une plateforme unique, Ligue 1 Plus. Et cette petite nouveauté change beaucoup de choses pour les fans de football. Jérôme Cazadieu, directeur éditorial de la chaîne.
Pour un supporter du PSG, la saison dernière, il y a 8 de ces matchs qui sont des top affiches, qui étaient pas sur Ligue 1 Plus. Pour Marseille, c'est 7 matchs de plus. Et quand on est fan, bah en fait, on aura l'intégralité de la Ligue 1.
En dehors des offres de lancement, il faut compter autour de 20€ par mois pour s'offrir l'exclusivité de la Ligue 1. Après avoir conquis 1 million d'abonnés lors de sa première saison, Ligue 1 Plus vise désormais 1,4 million de fans de foot en juin prochain. Le défi s'annonce immense, mais essentiel pour les clubs de Ligue 1 qui sont à bout de souffle au niveau financier.
Et puis ça ne bouge pas depuis des années. Rencontre évidemment à vivre sur RMC. À ne pas manquer ce soir, l'afterfoot en direct du Vélodrome. Jérôme Sillon, Daniel Riolo et Walid Acherchour à retrouver à partir de 23h pour débriefer le match et évidemment pour parler de la reprise du championnat.
La reprise de la Ligue 1, on va en parler d'un point de vue écho avec Pierre Rondeau après 8h tout à l'heure. Mais en attendant, vous êtes supporter. C'est un peu la rentrée. Il y a la rentrée scolaire dans une semaine, quelques jours. Là, il y a la rentrée du foot. Marseille-Strasbourg ce soir. On vous attend au 32-16 ce matin. Très bon réveil. Très bon réveil à Jérôme qui nous appelle de Meaux. On est en Seine-et-Marne. Salut Jérôme.
Bonjour Mathieu.
Et vous avez réagi à l'invité d'Élise tout à l'heure. On parlait du tabac en terrasse. Le Conseil de l'Union européenne recommande d'interdire la cigarette et la vape en terrasse. Il y a des pays voisins du nôtre, la Belgique notamment, qui prennent cette mesure. Est-ce qu'on va interdire le tabac en terrasse, Jérôme?
Moi, je le souhaite très, très fortement parce que,
Comme disait votre représentant de l'UMI tout à l'heure, il compte sur le fait que les gens soient respectueux des uns des autres.
Fonctionnent en bonne intelligence.
En bonne intelligence. Sauf que quand on regarde vraiment sur les faits, c'est absolument pas le cas. Le français est de plus en plus individualiste. Et honnêtement, moi, j'ai encore eu le cas il y a 13 mois. Juste hier soir, j'étais en terrasse. Une personne à côté de moi allume une cigarette. On lui demande s'il peut aller fumer un tout petit peu à l'écart. Et ben non, il est dehors. Il dit, j'ai le droit. Et cette personne-là, ben, du coup, a fumé la cigarette.
Et dans les faits, il a le droit. Donc, vous dites, il faudrait que la loi se mette de notre côté, quoi.
C'est ça. S'il n'y a pas une loi, les gens feront toujours ce qu'ils veulent. Et même s'il y a la loi, je ne suis même pas persuadé que ça fonctionne. Parce que regardez, par exemple, sur les quais de gare, actuellement, on n'a pas le droit de fumer. Moi, je prends le train tous les jours et partout en France, de par mon travail. Mais il n'y a pas.
Ouais, vous dites le fonctionnement à bonne intelligence, ça va deux secondes, vous y croyez moyen, quoi.
Ah, j'y crois absolument pas. Absolument pas. Et j'en veux pour preuve. Moi, je suis un ancien fumeur. J'avoue honnêtement, à partir du moment où j'avais le droit, on pouvait me demander ce qu'on voulait. À partir du moment où j'étais dans un endroit où j'avais le droit de fumer.
Et ça vous indispose, pour le dire clairement, Jérôme. Ah, vous êtes en terrasse, en train de profiter d'une terrasse parce qu'il fait beau, de boire un verre avec des amis, ça sent la cigarette à côté, ça vous indispose.
Moi, je fais partie de la pire des catégories. Les anciens fumeurs, je pense qu'on est les pires.
J'osais pas le dire, Jérôme. Mais on se comprend, je crois. Jérôme, merci beaucoup. Merci d'avoir appelé le 32-16 ce matin. Ce débat, on l'a avec vous. Est-ce qu'il faut y venir en France aussi, l'interdiction de la cigarette en terrasse des cafés et restaurants? 32-16 et le WhatsApp RMC pour nous écrire. Élise surveille le 06-12-424-424. Il est 7h13. 35 dates, un zénith déjà complet, mais aussi 32 plaintes et 4 mises en examen. Pourtant, Patrick Bruel ne renoncera pas à sa tournée d'automne, c'est ce qu'affirme le magazine Voici. S'il ne renonce pas, il nous trouvera sur son chemin. Ça, c'est le parti pris de Gaël Dalbenaz d'Oser le Féminisme, notre invité tout de suite sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMC. Si vous nous rejoignez, très bon réveil. Je voudrais vous poser quelques questions très simples à vous qui nous écoutez. Est-ce que vous pourriez aller voir Patrick Bruel en concert malgré les accusations, malgré les affaires? Si vous aviez des places, est-ce que vous iriez quand même? Lui, il ne renonce pas. Selon Voici, Patrick Bruel maintient sa tournée d'automne, 35 dates, du 2 octobre au 21 novembre, dont un zénith à Paris qui est déjà complet. Le chanteur est mis en examen dans 4 dossiers de violence sexuelle, témoin assisté dans 4 autres. Une nouvelle plainte pour tentative de viol a été déposée mercredi. Bonjour Gaël Dalbenaz.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole d'Oser le Féminisme, on sera sur son chemin. Ça, c'est votre parti pris ce matin. Ça signifie quoi exactement? Vous allez manifester, perturber les concerts à l'intérieur des salles?
Tout à fait. On va pas lâcher l'affaire. Nous ne lâcherons rien. Nous considérons que cette décision, si elle est confirmée par Patrick Bruel lui-même, est une provocation. D'autant plus que. Oui, tout à fait. Une provocation par rapport aux victimes qui, elles, clament les faits. Une provocation par rapport aux procédures judiciaires en cours qui sont contre lui. Et une provocation par rapport à la dignité de la personne humaine. Il a lui-même renoncé à sa pièce de théâtre. Il avait lui-même renoncé à différentes participations au festival en confirmant que, vu la situation, il ne pouvait plus assurer une tribune
publique. Vous dites qu'est-ce qui a changé pour qu'il puisse maintenir sa tournée, quoi.
Exactement. Bon, alors, qu'est-ce qui a changé?
Vous demandez l'annulation. La justice, rappelons-le quand même, Gaël Dalbenaz ne lui interdit rien. Il est présumé innocent.
On n'est pas dans un tribunal. Là, on est sur une scène publique. Effectivement, on n'est pas. On comprend bien qu'il fasse valoir sa présomption d'innocence. Sauf que là, la problématique, elle est sur le média. Lui, s'il continue tous ses concerts, il va pouvoir avoir une tribune publique et de par là même proclamer son innocence, proclamer que ce que disent les victimes, ce n'est pas vrai.
Le maire de Chartres, première date, première étape de cette tournée. Le maire dit déjà qu'il n'est pas le bienvenu dans sa ville. On l'écoute.
32 plaintes, c'est considérable, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'en appelle vraiment solennellement à Patrick Bruel à ne pas venir à Chartres.
Et lui dit les choses très calmement en plus. Il dit, prenons le temps, dans un an, s'il est blanchi, il pourra revenir, il n'y a pas de problème. Vous appelez tous les maires de la tournée à se positionner, à se faire entendre?
Eh bien, malheureusement, on va être obligé de faire, parce que si Patrick Bruel, lui, de lui-même, n'a pas la dignité, n'a pas le respect de se retirer de la vie publique quelques temps, effectivement, le temps que la justice puisse calmement prendre ses décisions. C'est ce qu'on va faire, parce que les maires ont des pouvoirs de police qui sont liés à l'ordre public, on le sait, donc ils ont pu déjà, par le passé, interdire certains spectacles, parce que ça provoquait un trouble à l'ordre public. Et aujourd'hui, on est en plein dedans. On est sur un débat féministe, on est sur des violences qui sont graves. Comme dit le maire de Chartres, on sait maintenant... il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de paroles qui sortent. La parole sort en disant « mais on savait comment était Patrick Bruel ». Et quand il arrivait sur un festival ou sur un concert, eh bien on prévenait les femmes de faire attention, un peu comme des SK. Donc aujourd'hui, effectivement, malheureusement, ce sont les maires qui vont avoir le pouvoir d'interdire.
Oui. Alors parce que Gaël Dalmanach, je voudrais le préciser pour nos auditeurs, vous le savez, mais on comprend que Bruel pourrait avoir maintenu ses dates pour des raisons économiques aussi, parce que s'il annule, il doit payer en qualité de producteur. Si c'est la salle qui annule, c'est elle qui doit payer. Du coup, c'est une impasse, personne ne bouge. Ces enjeux économiques et puis les autres enjeux, hein, les salles, les techniciens, les contrats, tout cela, vous le balayez, Gaël Dalmanach?
Bah, disons que moi, je pense que c'est même plus que ça, c'est du cynisme. Si l'argent doit être plus important que la vie de victime, c'est qu'on est vraiment dans une société qui n'a aucune éthique, aucune sensibilité. Donc moi, je pense personnellement, alors j'ai pas vérifié les comptes de Patrick Bruel, mais je pense que tout le monde pense et le sait que Patrick Bruel a suffisamment d'argent pour survivre jusqu'à la fin de ses jours, et je pense même qu'il aurait suffisamment d'argent pour assumer ses propres actes. Personne n'a d'assurance quand, effectivement, on est responsable de violences sexuelles et sexistes. Tout le monde le sait. Mais vu sa situation, il devrait se retirer, et les conséquences économiques, ben, c'est pas le problème des victimes. C'est pas notre problème, nous, des féministes. Il doit les assumer.
Et vous serez sur son chemin. C'est l'engagement que vous prenez ce matin, Gaël Dalmanach. Merci beaucoup, porte-parole d'Oser le Féminisme. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin sur RMC. Il est 7h20. Et dans un instant, le meilleur d'Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, l'amiral Chevalier, finalement, qui nous emmène à bord du nouveau porte-avions français. Enfin, le futur, la France libre. Le France libre, pardon. Le chiffre du jour, c'est avec vous, Pierre Rondeau, notre économiste, notre prof d'éco, si on peut dire.
Oui, est-ce que vous voulez savoir combien je gagne? Je vous le dirai pas.
Moi, je sais, j'ai accès à tout.
En tout cas, les profs, en moyenne, c'est 3 090 € par mois. Mais attention, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Et tiens, moi, je vous pose la question. Ça vous donne envie d'être prof? 3 000 € par mois, en moyenne. Il est 7h20, vous nous répondez au 32-16.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, vous êtes sur RMC, c'est l'heure du chiffre du jour.
RMC,
le chiffre du jour.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Pierre Rondeau, 3 090 € net, c'est le salaire moyen des enseignants en augmentation depuis 2023. Here comes the money. Here
we go. Money talks. Ah oui. Here comes the money. D'argent.
Oui. On peut baisser la musique maintenant.
Je crois qu'on a compris.
3 090 € net par mois, prime comprise, en augmentation de 4,3% depuis 2023, selon les derniers chiffres révélés hier par le service statistique du ministère de l'Éducation nationale. C'est une hausse plus importante qu'en temps normal, puisque habituellement, sur les 10 dernières années, les salaires des professeurs donc n'avaient augmenté que de 1% par an en moyenne. Dans le détail, les professeurs agrégés et de classe préparatoire sont à 4 190 € net par mois, les professeurs titulaires certifiés à 3 220 € et les professeurs des écoles à 2 950 €.
Donc 3 090 €, c'est une somme importante. Comment on explique cette hausse de ces dernières années?
Le dégel du point d'indice. Le point d'indice, c'est la valeur de référence qui sert à calculer le salaire brut de base de tous les enseignants. Pour déterminer le salaire, on prend l'indice personnel, donc son échelon, valorisé de caractéristiques particulières allant de l'ancienneté à l'enseignement de matières optionnelles, faire des heures supplémentaires ou encore être professeur principal, et on multiplie par la valeur de l'indice. Or, entre 2010 et 2021, cette valeur n'avait été gelée ou peu valorisée. Ensuite, face aux fortes inflations, on a revalorisé le point de l'indice, mais entre 2022 et 2023, les très fortes inflations avaient avalé finalement l'augmentation. Il a fallu attendre 2024 pour réellement constater un impact sur le pouvoir d'achat.
Bon, je suis partagé parce qu'on est bien au-dessus du salaire moyen, du salaire médian même.
3 090 €
avec cette moyenne. Et cela dit, on se dit que c'est peu pour enseigner, pour ce qu'ils représentent et leur oser. Est-ce qu'ils ont raison de se plaindre, les profs?
Alors oui, parce que il faut bien préciser que c'est une moyenne et que comme c'est une moyenne, on a beaucoup d'inégalités, ça masque beaucoup d'inégalités. Par exemple, le salaire d'un professeur débutant en début de carrière ne monte qu'à 2 000 €, un niveau environ 15 à 20% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE et l'Union européenne. Et après 15 ans d'ancienneté, on rattrape une partie du retard, mais on reste inférieur à la moyenne de l'OCDE dans le primaire et le collège. Enfin, précisons que les salaires des enseignants rejoignent la moyenne haute des pays de l'OCDE, seulement en intégrant les primes et les heures supplémentaires. Mais, dernier point, on reste très loin derrière des pays comme l'Allemagne, qui sont à plus de 5 000 euros.
Ouais, c'est quasiment le double pour les Allemands, parce que là, en plus, ce chiffre-là, c'est bien de le préciser. Les 3 000 euros, ça concerne toutes les primes, les heures sup, c'est ce qu'ils touchent en moyenne les enseignants en France. Est-ce que vous avez envie, vous, d'embrasser cette carrière, cette vocation du plus beau métier du monde? Est-ce qu'il est assez payé? C'est la question qu'on vous pose. Merci Pierre. On se retrouve après le journal de 8h. On va joindre l'utile à l'agréable avec la reprise de la Ligue 1 ce soir. Il y a un enjeu économique énorme pour les clubs. Rendez-vous à 8h20. Tout de suite, c'est le meilleur de l'historien d'Apolline Matin, Arthur Chevalier.
Arthur Emmanuel Macron a tranché hier en fin d'après-midi. Notre nouveau porte-avions portera donc le nom de France Libre. Il sera mis en service dans 12 ans, le temps de le construire, 2038. Ça correspond à quoi ce nom d'abord, France Libre, Arthur ?
Eh bien, c'est une vraie référence historique, Apolline, et c'est aussi une façon de faire un lien entre notre porte-avions actuel, le Charles de Gaulle, et son successeur. En tout cas, c'est ce qu'a déclaré le président hier. Ce nom, je cite, « s'inscrit dans la filiation du général de Gaulle, sa vie, son destin, les choix faits dès le mois de juin 1940 ». Après la débâcle.
Quelle est l'origine de cette expression de France Libre ?
Alors c'est d'abord une formule employée par le général de Gaulle, et la première fois qu'il l'emploie, c'est depuis Londres, dans un discours prononcé sur les ondes de la radio BBC en juin 1940. Il appelle les Français à résister. La formule, la voici : vive la France Libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors sur le moment, très peu de Français ont entendu cet appel, mais il n'empêche, un mouvement est né, celui de la France Libre, donc en opposition à la France battue par l'Allemagne, dirigée par Pétain et donc qui collaborait.
Beaucoup de Français vont rejoindre De Gaulle et répondre à son appel ?
Bon, alors au début, très peu. À l'été 1940, ils sont à quelques milliers. Pour beaucoup, ce sont des anonymes qui refusaient la défaite. Et un exemple typique de cet engagement, c'est Jacques Le Gall. Jacques Le Gall, c'est un jeune garçon de 19 ans qui répond à l'appel de De Gaulle, qui quitte sa Bretagne natale du jour au lendemain pour rejoindre l'Angleterre et combattre. Et d'année en année, ce mouvement va grossir.
C'est une véritable France parallèle qui se crée donc depuis Londres pour libérer le pays.
Exactement, Apolline, le France que le premier ministre britannique, Winston Churchill, reconnaît d'ailleurs comme la vraie France. Cette France libre, c'était en fait un vrai petit État de l'autre côté de la Manche. Il y avait un gouvernement avec De Gaulle à sa tête, une administration et surtout une armée qui s'appelait les Forces Françaises Libres. Et pour payer tout ça, l'Angleterre avait ouvert un crédit à la France Libre et au général de Gaulle pour qu'il soit complètement autonome.
Cette armée, elle va combattre ?
Bien sûr, les Forces Françaises Libres remportent leur première victoire à Koufra en 1941 dans l'actuelle Libye. C'était contre l'armée italienne qui était alliée aux nazis. Au terme de cette bataille, les soldats de la France Libre prêtent un serment, le serment de Koufra, où ils jurent de rester ensemble jusqu'à la libération de la ville de Strasbourg. Alors évidemment, ça voulait dire la libération de la France, ce qui se produira quelques années plus tard.
En 1942, De Gaulle dissout en réalité la France libre.
Et oui, la France libre devient la France combattante, une nouvelle structure plus large qui impliquait désormais les réseaux de la résistance dans l'Hexagone. Quoi qu'il en soit, la France libre reste le symbole de la France qui a dit non à la barbarie nazie, qui a su préserver une part de liberté et survivre à la défaite. C'est cet héritage que portera notre futur porte-avions.
Merci beaucoup Arthur, on sent que ça vous plaît ce nom.
Oui, j'aime beaucoup, je trouve que c'est un très bon choix. Le Charles de Gaulle, c'était un principe, la France libre, c'est le principe mis en action.
Merci Arthur Chevalier. Il est extraordinaire. Non mais vous êtes extraordinaire. Voilà. Ça m'a plu là, ce petit... C'était quoi ? C'était un principe et un...
Et là, maintenant, c'est un principe mis en action.
Mis en action, ça me plaît beaucoup.
7h28, vous restez bien sur RMC, vous retrouvez Arthur Chevalier quand vous le souhaitez en podcast, en direct, à partir de lundi, bien entendu. Après le journal de 7h30, on va parler du renoncement du gouvernement à doubler les franchises médicales. Vous réagissez au 32-16, mais d'abord la météo et le journal, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Un très bon réveil à toutes et à tous, c'est l'heure du journal avec Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Fan de foot, elle est enfin là. Coup d'envoi de la Ligue 1, OM Strasbourg, soirée spéciale en direct du Vélodrome sur RMC. Tout ce qu'il faut savoir sur cette reprise, c'est dans un instant. Les agents du fisc démunis de leur centre d'appel, ils n'y peuvent rien aux dernières cyberattaques et pourtant, vous l'entendrez, ce sont eux qui récoltent la colère des contribuables. Et puis Parigo dehors, l'un des tags hostiles découverts en Bretagne où les tensions montent entre touristes et locaux.
La Ligue 1 reprend ses droits ce soir.
Avec un Marseille-Strasbourg à suivre en direct sur RMC. Alors Paris sera-t-il toujours dominateur? Qui pour l'embêter? Il y a aussi ces équipes historiques du championnat qui sont de retour. Léo Piedaigneul, tour d'horizon avec vous de ce qu'il faut attendre de cette nouvelle saison.
Le Paris Saint-Germain tentera de décrocher un 6e titre d'affilée et n'a pas lésiné sur les moyens cet été avec l'arrivée du champion du monde espagnol Ferran Torres, mais aussi l'ancien monégasque et international français Marnès Akliouche. À l'OM, Bruno Genesio va devoir composer avec une fin de mercato mouvementée. Après les départs de Greenwood ou encore d'Aubameyang, c'est un Olympique de Marseille à la recherche de certitude qui va ouvrir le bal de cette saison ce soir face à Strasbourg. De son côté, Lyon rêve de redevenir un gros bras de la Ligue 1. Il faudra aussi compter sur Lens qui veut confirmer son exceptionnelle saison passée conclue à la 2e place. Les Lensois ont déjà frappé fort avec le trophée des champions remporté dimanche dernier face au PSG. Les Sang et Or sont encore candidats au podium cette saison. Une Ligue 1 qui voit le retour de Troyes et surtout du Mans, 16 ans après son dernier passage dans l'élite du foot français.
Et vous notez bien le rendez-vous sur RMC OM Strasbourg, coup d'envoi 20h45.
Vous l'avez bien noté, vous,
bien sûr.
OM Strasbourg ce soir, c'est à vivre sur RMC, bien entendu, soirée spéciale pour l'after foot en direct du Vélodrome. Alors à partir de 23h, Jérôme Sillon, Walid Acharchour et Daniel Riolo vont revenir sur la rencontre et ouvrir la saison. C'est reparti pour la Ligue 1. Vous êtes contents? Dites-le nous au 32-16, les supporters. On parlera de l'économie du foot français avec Pierre Rondeau après 8h.
Le gouvernement change de braquet sur les franchises médicales. Sur RMC cet été, la ministre de la Santé avait annoncé vouloir doubler ce reste à payer sur les boîtes de médicaments, sur les consultations. Il devait alors passer de 100 à 200 euros maximum par an face à la colère des associations de patients. Nouvelle proposition, une hausse, oui, mais alignée sur l'inflation, donc moins importante.
Et on retrouvera France Asso Santé qui était mobilisée hein, après cette annonce sur RMC cet été, juste après le journal de 7h30, mais déjà, là aussi, vous réagissez au 32-16.
Après les cyberattaques contre les impôts, l'ANSSI rend sa copie à Sébastien Lecornu aujourd'hui. L'agence de sécurité informatique doit préciser les contours d'une unité spéciale contre les hackers. C'est la volonté du Premier ministre. En attendant, d'autres doivent gérer la colère des contribuables. Ce sont les agents du fisc, en première ligne, au bout du fil des centres d'appel et souvent franchement démunis, Inès Zegloul.
Les mails qui s'accumulent et la sonnerie du téléphone qui retentit. Erwan décroche, l'appréhension, la boule au ventre, en l'attente des premiers mots dans le combiné.
Ça peut aller de c'est quoi ce bordel? Vous nous enquiquinez avec des doubles authentifications et au final, vous protégez pas nos données.
Pourtant, habitué, dit-il au nom d'oiseau qu'il n'ose même pas répéter après 8 ans de service dans un centre des impôts cette fois-ci, il a du mal à répondre aux invectives.
On leur dit de patienter, mais j'ai des gens qui me disent, est-ce que je suis concerné? Je ne sais pas.
Nous ne sommes même pas en possession de la liste des contribuables concernés, nous confient certains.
Ce que les agents voient arriver, c'est un surcroît de travail pour éteindre l'incendie. Donc
on va devoir redoubler d'efforts, concède Fanny De Coster. Elle est secrétaire générale CGT aux finances publiques. Cette rentrée fiscale va être chargée, prédit-elle.
Des journées à rallonge, une sensation de surmenage ou alors des délais. Ils vont s'allonger en termes d'attente des usagers pour que leur dossier soit géré.
Alors les réunions de crise s'enchaînent avec cette crainte que la crédibilité de leur administration ne soit écornée une fois de plus.
Inès Zegloul pour RMC. 4 départements en vigilance orange, le Var et les Alpes-Maritimes pour orages et des risques de pluie et d'inondation. La Corse en orange seulement pour les orages. Corse où 1360 campeurs ont été mis à l'abri à titre préventif hier soir. Attention à ces orages, notamment si vous prenez la route. C'est orange sur les routes au nord dans le sens des retours, rouge au sud.
La police parisienne vante son bilan anti-drogue.
Les chiffres sont là. Plus de 5 tonnes saisies dans l'agglomération de la capitale depuis janvier. C'est 25% de plus que l'an dernier. Maxime Clieruza, c'est le résultat d'une multiplication des opérations.
Dernière opération en date, avant-hier dans la cité Pablo Picasso de Nanterre dans les Hauts-de-Seine, une commune où 83 opérations contre les points de deal ont été menées depuis le début de l'année, conduisant à près de 200 interpellations sur l'agglomération parisienne. Les opérations de ce type sont en hausse de 17% sur un an et c'est toute l'économie des réseaux de criminalité organisée qui est dans le viseur des autorités, notamment les commerces soupçonnés de participer au blanchiment d'argent. Une quarantaine a été fermée depuis le 1er janvier à Paris et ses départements limitrophes et avec la loi narcotrafic promulgué l'été dernier, les préfectures peuvent également enjoindre les bailleurs à expulser les dealers et leurs familles de leur logement. 64 injonctions ont été adressées depuis le début de l'année dans la région.
Maxime Clier-Ruza du service police-justice de RMC. Garde à vue prolongée pour l'un des suspects du meurtre de Sonia Bellina, la tiktokeuse retrouvée calcinée dans le Gard la semaine dernière. Cet homme connaissait la victime et a déjà eu affaire avec la justice, selon nos confrères de BFM TV. Cette question ce matin, une haine anti-touriste est-elle en train de gagner la Bretagne? On se la pose après cette affaire, des voitures immatriculées en région parisienne rayées, des inscriptions hostiles, je vous les lis, Parigo dehors ou encore non aux Parisiens. Et puis cette femme qui a même été agressée verbalement à Pinmar au motif qu'on l'a soupçonnée de ne pas être du coin. Une plainte a été déposée sur place. Stéphane Dubuard, on sent la tension monter.
Restauratrice à Pinmar, ville touristique du Finistère, Sarah le reconnaît, les relations entre les habitants et les vacanciers peuvent être tendues.
C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que parfois il y a des touristes qui ne respectent pas forcément les règles, des incivilités au niveau du parking, au niveau des déchets, au niveau juste de la politesse. Mais parfois aussi, il y a des locaux qui ne se comportent pas correctement vis-à-vis des touristes en voulant un peu marquer leur territoire. Donc j'ai vu vraiment les deux choses.
Si le maire, David Lebert, estime que le sentiment de rejet vis-à-vis des touristes reste marginal. Il reconnaît qu'un débat doit s'ouvrir pour favoriser la cohabitation.
Maintenant, il faut que, bien sûr, le tourisme, ça reste quelque chose de raisonnable et de raisonné, de bien réfléchir sur le territoire. Donc, il va falloir qu'on prenne en compte aussi un meilleur aménagement, mais un meilleur accueil pour que tout le monde s'y retrouve.
À Pinmar, chaque été, la population est multipliée par 3, soit 10 000 personnes supplémentaires dans la commune.
Alors, ce racisme anti-parisien, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, pardonnez-moi d'avoir une plaque 75, 91, 93 et de se faire taguer quand on est en vacances. Vous réagissez, si vous le souhaitez, on sera avec le maire en direct, qui appelle au calme, finalement. C'est quand même le plus important, juste après le journal de 8h tout à l'heure.
En cyclisme, la retraite d'un champion français. D'après le journal L'Équipe, Julien Alaphilippe met un terme à sa carrière avec effet immédiat à 34 ans. Un coureur au palmarès immense et à la popularité encore intacte, Kevin Morand.
Oui, l'information doit encore être officialisée par le coureur et sa dernière équipe Tudor, contactée sans réponse hier soir. Mais le mois dernier, Julien Alaphilippe avait déjà confié qu'il courait son dernier Tour de France, terminé à la 125e place. C'était donc aussi sa dernière course. Celui qui avait porté le maillot jaune pendant 14 jours en 2019 restait le chouchou du public, car Loulou, comme le surnomme ses fans, affiche le plus beau palmarès du cyclisme tricolore de cette dernière décennie. Champion du monde 2020 et 2021, un doublé inédit pour un Français. Alaphilippe a aussi gagné un monument avec Milan-San Remo, des victoires d'étape sur les trois grands tours, dont 6 sur la grande boucle, où il a également remporté le maillot à pois. Le coureur de 34 ans devrait donc résilier son contrat avec Tudor, qui allait jusque fin 2027.
Bon, Julien Alaphilippe, vous voulez rendre hommage à Alaphilippe, une fin de carrière. Vrai. N'hésitez pas, là aussi, on est quand même sur la radio du Tour. Sur RMC, vous composez le 32-16, on vous prendra en direct avec nous.
Julien Alaphilippe qui pourra toujours faire comme Ronaldinho, la légende brésilienne du foot, qui rechausse les crampons à 46 ans. Il vient de signer à Ravenne, club de 3e division italienne. Ce n'est pas du tout un coup marketing, dit le propriétaire, c'est simplement l'envie d'offrir à Rony la possibilité d'inscrire un 300e but en pro. On n'est pas obligé de le croire non plus.
C'est la classe quand même. 3e division, Ronaldinho, à l'âge qu'il a, mais on le prend.
Je suis pas sûr. Vous avez vu l'état physique, je suis pas sûr. Mais bon.
T'as fait de belles photos. Les courses, Victor, le quintet, c'est sur l'hippodrome de Cabourg à 20h15.
Le pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, c'est le numéro 8, Kaiser, son outsider, le numéro 12, Brothers in Arms.
Merci beaucoup, Victor Pourchet. C'était le journal, il est 7h40. Vous restez bien avec nous. Benoît est en direct depuis la Mayenne. Salut Benoît.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RMC. Débat lancé dans le Morning par Élise tout à l'heure. Le tabac en terrasse. Plusieurs pays européens suivent la recommandation du Conseil de l'Europe. Interdire le tabac et la vape en terrasse des cafés et restaurants. Est-ce que c'est une bonne idée de santé publique, évidemment, Benoît?
Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Et j'irais même plus loin. J'interdirais le tabac, moi, dans les voitures.
vous faites référence à ce qui s'est passé cet été, j'imagine, puisque j'en souris, mais...
Oui.
Parce
oui,
que, pour le coup, faut le préciser, hein, s'il y a des enfants dans la voiture, c'est déjà interdit, hein, désormais.
Oui, d'accord.
Mais vous parlez des incendies.
Je parle pas que des incendies, c'est-à-dire que je parle de ce geste qui devient automatique de la part des fumeurs, quand vous les suivez en voiture, ils ouvrent leurs fenêtres et ça jette le mégot par la fenêtre.
Vous en voyez beaucoup?
Ah oui, moi, quand je prends la route le matin pour aller au travail, oui, j'en vois beaucoup. J'en vois beaucoup. Après, je peux rebondir aussi là-dessus. C'est également l'odeur de tabac dans un véhicule, c'est pas non plus très agréable. Le jour où vous vendez une voiture, c'est pareil, c'est pas très, très agréable.
Donc, Bruno, vous allez vous mettre tous les fumeurs à dos, il faudrait l'interdire partout, quoi, que ce soit invisible.
Non, je dis pas ça. Je dis que dans les voitures, ça devrait être interdit. Ben, vous l'interdisez. C'est bien interdit dans les restaurants. C'est quand même, je pense, une solution, ce serait de l'interdire aussi dans les voitures.
Mais pour les terrasses, du coup, vous disiez oui au passage. Benoît, oui, merci beaucoup. Oui, oui. On va faire la différence quand même. La voiture, c'est une dans la plupart des cas, c'est une propriété privée. On n'est pas dans un lieu public, contrairement au restaurant. Je ne sais pas si on aura ce débat un jour. C'est déjà interdit. Hein. S'il y a des enfants dans le véhicule, il faut le préciser, parce que ce n'est pas toujours respecté non plus. Benoît, merci de votre appel au 32-16. Il est 7h42. Et dans un instant, le gouvernement qui renonce hier soir à doubler la franchise médicale, ça avait suscité un tollé fin juillet quand ça avait été annoncé par la ministre de la Santé sur RMC. On va accueillir Catherine Simonin de France Asso Santé dans un tout petit instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h45 sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous. On va parler de beaucoup de chiffres ce matin, d'économie, des inquiétudes sur la rentrée. Ce sera avec Nicolas Bouzou à 8h40 et de l'économie de la santé à présent avec cette annonce de la soirée. Le gouvernement qui renonce au doublement des franchises médicales. Bonjour Catherine Simonin.
Bonjour.
Vous êtes membre du bureau de France Asso Santé, une fédération qui regroupe plusieurs associations de patients. Vous l'aviez entendu puisque ça vous avait mis en colère, mais pour ceux qui peut-être étaient en vacances, petit rappel de ce qui s'est passé fin juillet sur RMC, la ministre de la Santé.
Depuis 20 ans, les Français, tous les Français, s'ils dépassent un nombre de consultations ou un nombre de boîtes de médicaments, payent aujourd'hui, s'ils sont au maximum, 100 € par an. C'est un plafond. Ils ne peuvent pas avoir à payer plus. Ce que nous faisons, c'est que nous doublons ce plafond qui n'a pas évolué depuis 20 ans.
Alors, ce plafond qui devait passer, on le double, 200 à 200 €. C'était présenté comme une mesure phare d'économie. Mauvais levier, ce matin, vous vous réjouissez, Catherine Simonin.
Oui, nous nous réjouissons parce que, justement, c'est appuyer la tête sur les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens les plus malades, qui sont en affection de longue durée pour principalement, qui accumulent maladie, handicap, et c'est toujours plus pour des restes à charge qui sont très importants, parce qu'on parle là des médicaments, mais les médicaments, ils sont prescrits. Je pense qu'il y a des économies d'échelle à faire sur la pertinence et l'efficience de notre système de santé. Et ce sont des mots qui ne sont pas galvaudés. La pertinence, les médicaments, ce sont les médecins qui les prescrivent. C'est que la personne en a besoin. Or, si on laisse trop de restes à charge pour les médicaments, les personnes ne pourront plus les acheter parce que quelqu'un qui a 1 200 € de retraite aujourd'hui est concerné par les franchises.
Alors, Catherine Simonin, la ministre a dit aussi que la mesure n'avait pas été comprise, mal comprise. Est-ce qu'elle avait été mal comprise ou est-ce que c'est tout simplement qu'elle était rejetée?
Non, c'est pas, effectivement, elle a pas annoncé un doublement des franchises pour tout le monde. Elle a annoncé, en fait, le doublement des plafonds. Et les plafonds, ce sont les personnes les plus malades qui sont concernées. Le plus de consultations. Et alors, c'est pas le patient qui choisit de consulter avec un nombre de consultations considérable. Il y en a peut-être quelques-uns. Mais les patients qui sont atteints de maladies chroniques, ils ne choisissent pas d'avoir été malades et ils vont chez le médecin. En principe, ils se connaissent très bien quand ils en ont besoin. Et le médecin prescrit les médicaments qu'il leur faut. Après, il y a des prescripteurs qui prescrivent trop de médicaments. C'est identifié par l'assurance maladie. Alors, quand vous avez une ordonnance avec 14 spécialités, évidemment, ça fait beaucoup.
Ça fait rapidement beaucoup et les affections de longue durée, on comprend évidemment que c'est en plus régulier, donc c'était un coup pour eux. Élise, on a quand même quelques messages d'auditeurs ce matin qui soutenaient le doublement des plafonds, vous avez raison de le préciser Catherine Simonin, des franchises médicales.
Oui, et d'auditeurs qui sont inquiets de ce rétropédalage du gouvernement, c'est le cas de Jérôme par exemple qui nous demande comment voulez-vous que l'on arrive à réduire le déficit dès qu'une proposition est mise sur la table, aussitôt elle est contestée. Nous avons Yannick aussi qui nous écrit, le mur économique est inévitable. Et Yannick qui s'indigne de ce rétro-pédalage, pas étonnant en année présidentielle.
Alors, il y aura le projet de loi de finances de la Sécu aussi, hein, avant la présidentielle. Ce sera le dernier des deux mandats d'Emmanuel Macron. Ça s'annonce comme un casse-tête politique. Est-ce qu'on peut sérieusement redresser les comptes de la Sécu si à chaque fois qu'on propose une mesure, ça suscite une levée de bouclier, Catherine Simonin?
Alors, il y a d'autres moyens de faire des économies. Elle est identifiée par l'OCDE. Il y a une projection en 2040 des systèmes de santé. Il y a trois leviers. La prévention, d'abord, c'est-à-dire faire vacciner les gens, éviter des hospitalisations évitables, en réanimation notamment pour les personnes les plus vulnérables. C'est avoir un médecin, parce que là, il y en a plein qui n'ont pas de médecin. Et ceux-là ne peuvent pas se soigner, ne peuvent pas se faire vacciner, ne peuvent pas avoir un suivi. Ils arrivent dans le système de santé tout le temps en urgence et toujours trop tard. Donc, c'est aussi peut-être sur des personnes identifiées comme ceux qui sont atteints de maladies chroniques, c'est d'avoir une équipe soignante autour d'eux et d'avoir plusieurs entrées dans le système de santé. Ça libérera du temps médical pour trouver un médecin pour tous les autres.
Ça se passe en amont, si je vous suis bien. Catherine Simonin, membre du bureau de France Asso Santé, merci d'avoir accepté de nous répondre ce matin sur cette annonce de la soirée de la ministre de la Santé qui revient sur cette annonce du doublement du plafond des franchises médicales. Un autre mécanisme sera mis en place, on n'a pas le montant, il sera indexé, je mets des guillemets sur le mot indexé, sur l'inflation depuis 2005. On verra ce que ça donne in fine. Merci Catherine Simonin, il est 7h50.
Et dans un instant, le portrait du jour.
Apolline Matin.
Pardon madame, pardon monsieur. Dans un instant, le portrait du jour, Élise.
De vendeur de voiture à prince de Belgique, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un test ADN.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
7h52 sur RMC, le bonus, Géraldine, avec la franchise K-pop Demon Hunter qui pourrait devoir changer de nom.
Je sais, Mathieu, vous connaissez le film par cœur. Alors pour ceux qui connaissent un peu moins, je vous rappelle que le film d'animation suit un groupe de K-pop qui partage sa vie entre la scène et la chasse aux démons. Et alors, à votre avis, quel est son point commun avec ça?
C'est moi.
C'est effectivement, Mathieu. Mais en plus d'être vos deux passions, ils partagent le même nom. Puisque ce qu'on écoute, c'est le groupe de Metal Demon Hunter. Donc juste le K-pop devant. Et ça leur plaît pas du tout. Ils attaquent Netflix en justice pour concurrence déloyale. Le groupe créé en 2000 demande l'interdiction d'utiliser leur nom, tout simplement, et des dommages et intérêts au passage. Apparemment, les gens confondent les deux. Une dame a même demandé le remboursement de ses places de concert, puisqu'elle pensait aller voir un spectacle adapté pour ses petites filles de 5 et 6 ans.
Alors, on monte le son, s'il vous plaît. Mais moi, c'est ce que je leur mets à mes enfants le matin.
Drôle de soirée,
RMC, Apolline Matin.
7h53 sur RMC et RMC Story. Le portrait ce matin consacré à Élise, au nouveau prince de Belgique reconnu depuis peu. On l'a appris hier grâce à nos confrères de Soir Mag.
C'est en février dernier que la famille royale belge s'est agrandie. Pourtant, ce mois-là, il n'y a eu aucune naissance, simplement une reconnaissance, celle de Clément Vandenkarkov, 26 ans, fils caché du prince Laurent et donc neveu du roi de Belgique.
Un nouveau prince charmant à la couronne de Belgique. On en connaît sa mère ?
Non, nous, pas vraiment, mais nos voisins belges la connaissent bien. Iris Vandenkarkov, plus connue sous le nom de Wendy Van Vanten, chanteuse culte des années 80-90. C'est d'ailleurs en 95 à Paris qu'elle rencontre le prince de Belgique. Leur fils Clément naît 5 ans plus tard, mais le prince Laurent préférera s'effacer.
Mais Clément lui-même n'apprendra l'identité de son père que très tard.
À l'âge de 16 ans, c'est sa mère qui lui annonce jusqu'au test ADN réclamé par le prince Laurent et réalisé quasiment 10 ans plus tard. C'est un match à 99,5%. Son père admet alors sa paternité dans un communiqué publié en septembre dernier. Et c'est donc en février qu'il reconnaît officiellement Clément devant un officier de l'état civil.
Mais ça change quoi pour le jeune Clément ?
Pas grand-chose en réalité, puisque même s'il a désormais le titre de prince, il ne recevra ni dotation, ni fonction de représentation de la famille royale. Il peut donc continuer à bosser. Actuellement, il travaille dans la cuisine d'un restaurant. Avant, il était vendeur de voitures.
Ouais, mais prince, c'est pas mal de pouvoir utiliser ce titre quand même. Est-ce qu'il peut prétendre au trône ?
Non. Il est né hors mariage et puis de toute façon, ça serait pas arrivé puisque son père figure lui-même à la 15e place dans l'ordre de succession. Un père dont il peut en revanche désormais porter le nom, Saxe-Cobourg, comme ses trois demi-frères et sœurs. Mais Clément a déjà balayé cette option à la télévision flamande. Sacrifier mon nom de naissance serait trahir tout ce que ma mère a fait pour moi. Un hommage assumé à celle qui l'a élevé seule.
Il est 7h55. Merci pour ce portrait, Élise. Tout l'été, des reportages près de chez vous, 5 mois après les élections municipales.
RMC.
Dans vos villes.
Et aujourd'hui, c'est déjà le dernier de ces reportages RMC dans vos villes. On vous fait découvrir le plus jeune maire des Alpes-Maritimes. Il a seulement 20 ans. Il s'appelle Ewan Corinaldesi.
et il est encore en étude de droit. Selon son quotidien, à Roquefort-les-Pins, commune d'un peu plus de 7000 habitants près de Grasse, a bien changé depuis son élection au mois de mars. Thomas Becker l'a rencontré pour RMC.
Bonjour, vous allez bien ?
Monsieur le maire donne rendez-vous dans un restaurant italien. C'est jour d'inauguration, il tient à saluer la nouvelle équipe et pour se mettre son auditoire dans la poche, il parle au chef en italien.
Di dove?
Puglia.
Ah, che bella Puglia. Enchanté de vous voir à Roquefort-les-Pins dans ce cas.
Merci. L'air sérieux, en chemise, tous les jours, même avec 36 degrés affichés au thermomètre. À 20 ans, il ferait presque oublier son âge, sauf quand certains détails le trahissent.
Qu'est-ce que je vous offre ? Juste de l'eau ? De champagne.
Mais non, je peux pas, moi je suis jeune conducteur, vous savez.
Ah,
il est méfait d'être élu local avec un A sur la voiture.
Ewan Corinaldesi crée un petit séisme dans cette ville de 7000 habitants en battant en mars dernier, à quelques voix près, le maire sortant, élu depuis plus de 40 ans. Dans le restaurant, il retrouve des proches, des amis qui l'ont vu grandir comme Fabienne. Et elle écoutait le parcours d'Ewan et tout sauf une surprise.
Ce qu'il souhaitait depuis très longtemps, de toute façon. Voilà, il a la fac de droit. Avant, il avait reçu le concours d'éloquence. Et quand ils lui ont posé la question à ce qu'il voulait faire, il a dit « Je veux être maire de Roquefort-les-Pins ». Et voilà, il était maire de Roquefort-les-Pins.
Il n'a pas encore 20 ans quand il prépare sa candidature. Il veut s'entourer d'une équipe expérimentée. Alors il frappe à la porte de son voisin Thierry, ancien pompier. Il est désormais adjoint à la sécurité. S'entourer, voilà selon lui le secret de la réussite d'Ewan.
Je pense qu'il apprend beaucoup des autres et un autre contact, il est à l'écoute. On a besoin de lui, mais je crois qu'il a besoin aussi de nous, dans l'accompagnement, sur ce mandat. Et de toute façon, on sera derrière lui.
Direction la mairie, au premier étage, le bureau du maire. Rideau jauni, moquette, un décor vieillot qui détonne avec la jeunesse du nouvel édile. Il n'a pas encore trouvé le temps de rafraîchir la pièce, trop occupée au quotidien par les dossiers de la commune.
Il y a beaucoup d'administrations courantes. Donc voilà, c'est vraiment très général. Ça peut aller du courrier demandant au voisin d'arrêter de couper le fil à linge de la voisine qui l'accrochait sur le grillage, jusqu'au permis de construire ou au permis d'aménager.
Depuis mars, il continue d'apprendre sur le tas et sait aussi être piquant avec son prédécesseur avec qui les relations sont tendues.
La surprise que j'ai eue de découvrir mon nombre de permis de construire pour des immeubles, alors que pendant la campagne, mon prédécesseur expliquait qu'il avait protégé une forêt. En fait, il prévoyait d'y faire des immeubles.
Un tacle politique. Alors, à 20 ans, a-t-il déjà des ambitions pour la suite ? À ce stade, il se concentre sur sa fonction de maire. Il ne veut pas en faire un métier. C'est pour ça qu'il poursuit en parallèle ses études de droit. Il veut devenir avocat. À partir de septembre, il bénéficiera du statut de l'élu étudiant.
Je serai présent 4 jours sur 5 en mairie. L'idée, c'est vraiment de diviser par 2 le nombre de cours. Et donc de reporter les cours non faits sur une année, sur l'année suivante.
À ce rythme, il aura fini son master dans 7 ans, en 2033, ce qui devrait correspondre à l'année des prochaines élections municipales.
Ça tombe bien. Merci Thomas Becker. Il est 7h58 sur RMC. Dans un instant, le journal de 8h avec à la une Patrick Bruel qui ne renonce pas après sa tournée de 35 dates. Qui ne renonce pas à sa tournée. Puis juste après, l'écho avec Pierre Rondeau. Pierre, on y est, c'est la reprise de la Ligue 1.
Et oui, et je suis hyper content, mais il y a quand même un mais. Il y a un problème, les clubs ignorent de quoi sera fait 35% de leur budget. Et oui, 35% c'est les droits TV.
Allez, en démarrant l'année, c'est délicat. Il est 7h58, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8h01, vous êtes sur RMC, très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
La tournée de Patrick Bruel s'annonce très agitée.
Le chanteur mis en examen pour viol remonte sur scène à l'automne. Les associations féministes promettent de se mettre en travers de son chemin, comme le maire de Chartres où aura lieu son premier concert. On prend les mêmes et on recommence. La route des vacances, toujours aussi chère. Les prix du carburant repartent à la hausse. Et puis l'Olympique de Marseille veut faire table rase du passé. Nouvel entraîneur, nouveau dirigeant pour démarrer cette nouvelle saison. La Ligue 1 reprend ce soir avec OM Strasbourg.
Et Patrick Bruel va donc remonter sur scène à l'automne et cela s'annonce déjà mouvementé.
Le chanteur de 67 ans maintient sa tournée anniversaire malgré sa mise en examen pour viol et agression sexuelle et malgré la trentaine de plaintes qui le visent. Nous serons sur son chemin, promet ce matin sur RMC la porte-parole d'Oser le féminisme qui appelle les maires à interdire ses concerts. La première date, ce sera à Chartres début octobre. Patrick Bruel n'est pas le bienvenu, dit son maire Philippine Boulet. Les habitants, eux, sont un peu plus partagés.
Patrick Bruel en concert dans leur ville. Ses deux vieilles amies chartraines n'y voient aucun problème.
Il faut bien qu'il gagne sa vie, donc il n'y a pas de souci.
Les personnes qui le trouvent bien vont le voir. Ceux qui ne l'aiment pas ne vont pas. Puis voilà, c'est tout.
Elle serait même prête à assister à son spectacle.
Bah oui, c'est un bon chanteur. Peut venir. À la limite, j'aurai un billet gratuit, j'irai. Tant qu'il n'y a pas de procès,
Ça n'a rien à voir avec son travail.
Tout l'inverse de Chloé. Elle dit même avoir honte.
On ne veut pas de lui, donc encore moins en première date.
Avec sa mère, Stéphanie, elle pense qu'il aurait dû se mettre en retrait le temps qu'une décision judiciaire soit rendue.
Je pense que présumé innocent ne veut pas dire innocent.
Il a plein d'affaires aux fesses. C'est pas tout à fait normal qu'il puisse encore se produire.
Elle voudrait que le concert soit annulé, tout comme Ladislas Vergne, le maire de Chartres.
32 plaintes, c'est considérable. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, j'en appelle vraiment solennellement à Patrick Bruel à ne pas venir à Chartres.
La salle de spectacle où le chanteur doit se produire est gérée, entre autres, par la municipalité.
Si il voulait absolument maintenir sa venue, eh bien, nous réservons tous les moyens juridiques pour qu'ils ne viennent pas.
Hier soir, les toutes dernières places étaient encore en vente pour la première date de cette nouvelle tournée du chanteur.
La marche arrière du gouvernement, le plafond des franchises médicales ne sera finalement pas doublé, mais basé sur l'inflation, mesure qu'avait annoncé à la base la ministre de la Santé Stéphanie Rist, ici même sur RMC le mois dernier, façon pour le gouvernement de trouver des économies en augmentant donc le maximum de ce reste à charge en pharmacie ou en consultation médicale. Ça sent le retour des vacances, il va y avoir du monde sur la route aujourd'hui et demain, c'est rouge dans le sens des retours selon Bison Futé aujourd'hui pour un gros quart sud ouest et une partie du sud-est. Demain, ça concernera toute la moitié est du pays. La route aujourd'hui qui va encore coûter cher. L'essence à nouveau au-dessus des 2 euros le litre, 2,20 euros pour le gazole. Alors Antonin Audion, les automobilistes trouvent tant bien que mal des astuces.
La facture a du mal à passer pour Laoury sur la route du retour des vacances.
Là, je viens du sud de la France et je m'arrête pour mettre le carburant, c'est horrible. À l'époque, c'était 72 euros, maintenant c'est 100 euros. Ça fait beaucoup.
Alors, pour limiter au maximum les coûts, il faut être créatif.
Pour modérer sa vitesse. Et là, ça fait un peu d'économie. Au lieu de s'arrêter à acheter des sandwichs sur autoroute, on prépare les sandwichs à la maison.
Pour ses premières vacances avec une voiture, Aurélien, étudiant de 23 ans, a dû faire attention pour tenir son budget.
Faut s'organiser, ouais. Je vois que là, il me reste combien sur mon compte. Je me dis, je peux mettre tant d'essence, ça veut dire que je peux aller là-bas, et puis voilà. Il faut prendre ça en compte, sinon, grosse surprise, on arrive, hop, le compte est dans le rouge.
Partie avec ses deux enfants et son mari, Karine a roulé sans compter pendant les vacances, mais à la rentrée, elle range la voiture au garage.
Je prendrai le plus possible mon vélo pour les déplacements, quand c'est pas trop loin, et on ira à l'école en vélo.
Les prix des carburants au plus haut depuis des mois, ça nécessite de s'adapter au quotidien pour Kenny, père de deux enfants.
On se prive sur d'autres choses. Là, par exemple, on va aller faire 2-3 courses, je vais forcément réduire mes achats, sachant que je sais que j'ai du carburant à faire pour tout le monde.
Pour l'instant, c'est la résignation qui domine. Les carburants à plus de 2 euros maintenant, il va falloir faire avec.
Les activités de plein air interdites en Corse jusqu'à ce soir. Vigilance orange aux orages sur l'île et dans le Var et les Alpes-Maritimes où la vigilance est également en vigueur pour pluie, inondation. Le risque est élevé après un été très sec, les sols devenus quasi imperméables. La sécheresse qui provoque du changement au rayon fruits et légumes. On vous en parlait cette semaine des tomates, des salades qui sont très petites. Et bien les pommes de terre, elles aussi souffre. La récolte va bientôt commencer et s'annonce d'ores et déjà très mauvaise, avec des conséquences évidemment sur les frites. Dans la région de la frite, le Nord, les commerçants et les clients doivent s'adapter. Amélie Courset.
Des frites qui débordent des barquettes.
Je dirais jamais autre part, hein, tellement qu'elles sont délicieuses.
Croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur, mais peut-être plus pour très longtemps, car l'ingrédient principal, la pomme de terre, arrivera bientôt dans cette friterie trois fois moins grosse à cause de la sécheresse.
Bah, les tailles des frites seront, bah, on peut le voir directement, ça fait vraiment des mini-frites.
Derrière les bains d'huile, avec son tablier, il a noivron.
Il n'y a pas vraiment d'impact sur le goût des frites. Ils sont peut-être un petit peu plus roussis, mais les clients... Ils vont être impactés un peu par cette taille des frites, c'est vrai.
Oui, car ici, les frites, plus qu'un repas, c'est une institution, nous dit Sébastien, et on ne rigole pas avec la taille.
Parce que déjà, ça va jouer sur la cuisson. Vous savez, contre les petites frites trop cuites qui croquent, c'est pas terrible. Après, il faut voir s'il va avoir une répercussion sur le coût aussi. Je suppose que moins de quantité égale plus cher les fonds des matières premières.
Une hausse des prix de la pomme de terre est probable, anticipe la filière. Alors, faut-il s'attendre à moins de frites dans les assiettes?
Non, on est du Nord quand même. On est du Nord, la frite, c'est important. On pourra pas. De toute façon, on attendra l'an prochain et en espérant qu'elle soit plus grosse.
Et pour ça, pas de recette miracle, il faut espérer plus de pluie.
Pas de recette miracle. On mangera quand même des frites. Hein, faut pas paniquer. La rentrée politique commence tout juste, Clara, et déjà l'heure des choix pour les écolos.
Rassemblés aujourd'hui et demain à Grenoble pour leur journée d'été, deux jours de rencontres, de débats, pour affiner la stratégie du parti et choisir un camp. La patronne des écologistes, Marine Tondelier, avait appelé à parler à toute la gauche. Mais quelle gauche au final? C'est toute la question qui divise le parti, Cyprien Pézeril.
Soutenir la candidature de Marine Tondelier, porte-étendard des Verts, rallier Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann, rien ne s'impose chez les militants tiraillés. Ici, Jonas et Ali.
On est dans un moment qui est compliqué. Moi, à titre personnel, c'est difficile d'aller voter pour Glucksmann. Nous, on a besoin d'une gauche qui est solide sur ses appuis.
Je ne suis pas militant LFI. Mélenchon, c'est pas ma cam.
De quoi épuiser Jean-Pierre et Christian alors que la campagne débute à peine.
Ça m'agace profondément.
C'est la course de petits chevaux. Je suis candidat. Retenez-moi, sinon je suis candidat.
Et si les dirigeants du parti s'écharpent, Marine Tondelier espère encore rassembler derrière elle, toujours dans la course pour l'instant.
Évidemment, je suis candidate. Est-ce que j'en ai fait un enjeu juste personnel? Évidemment que non. Les écologistes feront partie à la fin de la solution s'il y en a une. Ce que je crains aujourd'hui, c'est qu'il n'y en ait plus, à force que chacun se tape l'un sur l'autre toute la journée.
Mais il faut trancher, et vite, alerte Sandrine Rousseau, elle plaide pour se rapprocher des insoumis et appelle en tout cas à un vote des militants écologistes.
On s'embourbe complètement et on est en train de s'enliser totalement. Donc maintenant on choisit. Voilà, ce sera pas facile, mais on choisit.
Et un cadre de se lamenter, pour l'instant on ne se prépare pas à gagner la présidentielle, mais à savoir qui sera le chef d'une gauche condamnée à échouer.
L'attente est terminée, ça y est, c'est la reprise de la Ligue 1 ce soir. L'Olympique de Marseille ouvre le bal contre Strasbourg, coup d'envoi 20h45. L'OM qui espère se relancer après une saison très compliquée, Léna Marjac.
Les visages ont changé cette saison à la tête de l'OM. Plus de Pablo Longoria comme président, place à Stéphane Richard. Fini aussi avec Mehdi Benatia au poste de directeur du football. Au revoir Habib Bey, place à Bruno Genesio sur le banc marseillais. Et sous ses ordres, 5 matchs de préparation cet été, 3 victoires. Et cette envie maintenant de prouver sur les pelouses de Ligue 1.
On a hâte de retrouver notre public, le championnat. En tout cas, on l'aborde avec de la confiance et des joueurs que j'ai trouvés très très concernés.
Timothy Weah est peut-être le plus concerné par cette reprise. Le voilà nommé nouveau capitaine de l'Olympique de Marseille.
Il va falloir jouer à 100% et être agressif. Il faut rester ensemble, avoir la mentale.
Le groupe marseillais s'est ressoudé, s'est retrouvé après la saison dernière chaotique, terminé à la 5e place du classement et surtout aujourd'hui face aux incertitudes du mercato liées aux problématiques financières du club. Mais Weah l'assure, rien n'atteint l'effectif.
C'est des joueurs qui aiment le foot, qui ont envie de gagner. Cette groupe mérite beaucoup de choses parce qu'on travaille bien, on veut gagner. Pas seulement pour nous, mais pour les supporters, pour les staffs, même le coach.
Alors il n'y aura plus qu'à débuter cette saison de la meilleure des manières devant leur public au Vélodrome face à Strasbourg ce soir.
Rencontre à vivre évidemment sur RMC. À ne pas manquer l'after foot qui sera en direct du Vélodrome ce soir. Jérôme Sillon, Daniel Riolo et Walid Acharchour à retrouver à partir de 23h pour débriefer le match et bien sûr parler de cette reprise du championnat. Julien Alaphilippe range le vélo. Le coureur de 34 ans prend sa retraite selon plusieurs médias dont le journal L'Équipe, le Tour de France. C'était donc la dernière compétition du double champion du monde. Et puis si vous êtes en panne, tiens, sur la route, pensez à vérifier sous le capot de la voiture. C'est là que s'est logé un boa constrictor près de Toulouse. La voiture est stationnée depuis un mois, je vous rassure. Les pompiers de Haute-Garonne ont été appelés. Ils ont donc découvert ce serpent d'1,50 m. Ils ont été appelés 2 fois en une seule semaine dans la région. C'était un serpent d'1 mètre qui s'était échappé hier d'un vivarium. Voilà,
oui.
Deux boas.
Oui, parce que c'est pas endémique à Toulouse, le boa constrictor. Je sais qu'il y a le réchauffement, qu'il fait chaud à Toulouse. C'est un peu impressionnant d'ouvrir le capot et de tomber sur le boa. Merci Clara. Il est 8h11, vous avez parlé de la rentrée des politiques, de la rentrée du foot, il y a la rentrée des RMC aussi. Je dis toujours, appelez-nous, vous êtes ici chez vous. Mais en fait, nous, on n'est pas chez nous, on est chez Apo. Ça va Apo?
Salut, ça va très très bien. Je sais que vous avez chauffé le nouveau studio.
Comment ça va Pauline?
Je suis très impatiente.
Les vacances déjà, prenons le temps.
Bon, les vacances très françaises, très familiales, très sympathiques. Donc ça, c'était bien. Voilà. C'est presque fini, en effet. Et je suis assez impatiente parce que je me dis, je vous entendais même dans le journal là parler de la rentrée d'Europe Écologie Les Verts, tout ça. En écoutant ce reportage, je me suis dit, on a vraiment, vraiment besoin, d'autant plus cette année, d'éclairage, de comprendre. Nous, sur RMC, ce sera évidemment à notre sauce, c'est-à-dire avec une forme de conversation. Vous connaissez ça par cœur, Mathieu, mais pour nous... Cette année, ça compte encore plus que jamais. C'est-à-dire l'idée qu'une année de choix démocratique, il va falloir informer, éclairer, débattre et installer aussi cette forme de conversation à la fois entre nous et les Français entre eux. C'est-à-dire nous, on donne la parole au 32-16, on répond aux questions des Français et puis qu'ils puissent se parler aussi entre eux parce que sur RMC, on est convaincus qu'on doit être un espace de rassemblement. Et puis alors... J'allais dire que j'ai 2 petits nouveaux, mais c'est pas des nouveaux. vraiment, dans cette année, on s'est dit comment on fait pour essayer de comprendre le mieux possible tous les enjeux, à la fois les enjeux pour les Français et pour la France. Et donc, j'aurai à mes côtés tout au long de la matinale, qui vont traverser la matinale avec moi, deux éclaireurs, deux compagnons, Emmanuel Lechypre et Arthur Chevalier. Ils seront pas cantonnés à une chronique, ils seront pas dans un petit espace entre deux minutes, non. Ils seront là tout du long, avec moi, pour parler et pour éclairer, pour donner l'avis de l'économiste et de l'historien, les informations de l'économiste et de l'historien. L'économiste, bah parce que Emmanuel Lechypre, il parle des Français, il parle du pouvoir d'achat, de la consommation, du travail, de l'entreprise, du budget, et que tout ça, eh ben c'est notre quotidien à tous et qu'on a besoin encore plus de comprendre. Et puis Arthur Chevalier, il parle de la France, il parle du monde, il parle de l'Europe, il parle de notre patrimoine, de nos racines, de ce que l'on est, de ce que l'on veut être, et ils seront tous les deux, Arthur et Emmanuel, dès 7h, même dès 6h50 pour être précis, et ils vont traverser cette matinale avec moi, ils répondront aux questions des auditeurs, ils essayeront de piquer aussi mes invités, ils rentreront dans les interviews. Je suis très très impatiente aussi de ce trio, parce qu'ils vont vraiment m'accompagner tout au long de la matinale, et voilà, ça va être formidable. Et puis il y aura bien sûr les journaux, les chroniques, les auditeurs, Arnaud Demange, qu'on est très impatient de retrouver. Alors lui, il a été beaucoup plus loin que moi, lui il est parti de l'autre côté de l'Atlantique cet été, il en revient plus américain que jamais. Voilà, c'est la
J'ai
vie,
hâte
c'est
qu'il
le,
nous raconte.
Le retour de la vie.
C'est le retour lundi matin en direct. On sera au Morning RMC avec Élise dès 5h, et puis Apolline dès 6h50, vous l'avez entendu. Mettez le rêve. Il vous reste que deux dodos pour vous reposer quelque part, Apolline. En tout cas,
prête.
Tout nouveau studio, tout beau, prêt pour la rentrée, ça je peux vous le confirmer. Apo, à lundi matin.
Extra, à lundi.
À lundi, et bon week-end, dernier week-end des vacances. Il est 8h14 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Alors, les touristes sont-ils indésirables en Bretagne? Paris go dehors, touristes go home. Voilà ce qui était tagué sur des voitures immatriculées 75 dans la commune de Ploban-Alec, Lesconil, dans le Finistère. Il faut que la chasse aux touristes s'arrête. Le coup de gueule dans un instant du maire de la commune, Loïc Le Fourre. À tout de suite sur RMC, RMC Story.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h16, vous êtes sur RMC et RMC Story. Parigo dehors, non aux Parisiens. Touristes go home. La semaine dernière, à Ploban-Alec, Lesconil, dans le sud Finistère, des voitures immatriculées en Île-de-France ont été taguées. Et plusieurs communes bretonnes ont connu ce type de rejet cet été. Loïc Le Fourre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le maire sans étiquette de Ploban-Alec, Lesconil. Question simple, hein, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Racontez-nous sur votre commune.
Bah, il s'est passé que sur la plus grosse manifestation de l'été, donc la fête de la langoustine, plusieurs véhicules ont été dégradés à coups de clé avec des inscriptions, comme vous avez dit, donc parisien dehors ou parisien go.
Combien de véhicules concernés?
Alors, à ma connaissance, j'en ai eu 4, mais il semblerait qu'il y en ait plus que ça.
Il semblerait qu'il y en ait plus. Alors, un détail troublant, certains véhicules tagués appartenaient en réalité à des enfants du pays qui sont peut-être allés s'installer en région parisienne pour travailler. Ça dit quoi de ces actes finalement?
Tout à fait. Alors pour la plupart, ce sont des enfants du pays effectivement qui sont partis travailler à Paris, comme beaucoup de Bretons. Hein. On connaît bien le quartier Montparnasse à Paris. Donc oui, effectivement, mais ce qu'il en est, c'est que c'est ce qui est malheureux, c'est que de s'attaquer à du matériel de particulier. Mmh. On peut ne pas être pour le tourisme ou sur le surtourisme, comme ils disent certaines personnes.
Vous souffrez de surtourisme simplement chez vous, dans votre commune. C'est quelque chose où vous dites parfois c'est un peu trop.
Je dirais pas ça. Je dirais que on a pris peut-être un peu de retard. On a été un peu surpris la période après Covid. Il y a eu un afflux de population estivante sur notre commune, et on a besoin de revoir un peu nos équipements de façon à ce que ça se passe mieux pour tout le monde, que ce soit pour les estivants et surtout pour les résidents.
Mmh. Il y a des plaintes qui ont été déposées, monsieur le maire. Il y a une enquête en cours.
Oui, il y a une enquête en cours. Les plaintes ont été déposées.
Vous parlez d'écœurement. Ça vous a écœuré, cet épisode? Ouais.
De ma part?
Oui.
Oui, parce que j'ai du mal à comprendre. On peut ne pas être d'accord avec certaines choses, mais on s'attaque pas au bien des personnes. Et je suis, moi-même, en fait, mon père était parti en région parisienne également pour travailler. Il est revenu au pays. Et à l'époque, on n'a jamais entendu de Parisiens go home ou de retour des Parisiens chez eux. Je trouve ça quand même malheureux, parce que Ploban-Alec-Lesconil et l'ensemble du pays bigoudin On est une terre d'accueil, on accueille beaucoup de gens. Et puis on a besoin du tourisme, on a besoin de tout le monde pour faire vivre notre pays à l'année.
Bien sûr, il y en a besoin pour l'économie de la ville. Et puis c'est vrai que la Bretagne est une terre accueillante, dira le Parisien qui vous parle là. Élise, on a pas mal de messages.
Alors accueillante, je suis pas sûre que Laetitia dirait la même chose. Elle témoigne ce matin sur le WhatsApp RMC. C'est une Marseillaise qui a passé quelques vacances en Bretagne avec une voiture de location immatriculée 75.
Voilà, ça Marseillaise, peu, immatriculée 75.
C'est déjà un peu cocasse.
En Finistère.
Eh bien, figurez-vous qu'un Breton a bloqué sa voiture en se garant derrière elle sur le parking d'une halle aux légumes et il lui a dit en sortant qu'il faisait ça parce qu'il n'aimait pas les Parisiens. Voilà, ça c'est pour le témoignage de Laetitia. On a Jean-Pierre aussi qui nous écrit: le problème c'est pas d'être parisien, c'est le manque de respect. Christian aussi, la vieille expression parisien tête de chien, parigot tête de veau ne vient pas de rien non plus. Bon, un peu de modération dans ce débat. Et on a aussi Véro qui témoigne du mauvais comportement depuis Montpellier. Véro, du mauvais comportement des touristes, de leurs incivilités récurrentes qui peut provoquer évidemment
le sujet quand même. Il y a un sujet quand même.
Ça crée beaucoup de débats.
Ça crée du débat, du témoignage. Est-ce que c'est un dérapage isolé, monsieur le maire, ou le symptôme d'une tension un peu plus large ? C'est vrai que la France entière, disons-le, s'est tournée vers la moitié nord. La Bretagne, ouais. La Normandie, les Hauts-de-France. On est venu chercher un peu de fraîcheur, même si c'est très chaud chez vous quand même.
Oui. Mais non, effectivement, et vous parlez de respect, et je pense que c'est tout à fait ça. Le mot, il est là, c'est de respecter. C'est-à-dire que les résidents doivent effectivement respecter les estivants qui viennent parce que, voilà, pour l'économie, pour tout ça. Mais il faut également que les estivants respectent les résidents. On le constate, hein, c'est vrai, de toute façon, plus on est de monde, plus il y a d'incivilité. Parce que c'est normal, on est plus nombreux, mais voilà, il n'y a pas que les tags. Ça, le tag, c'est ce qui a fait sortir l'affaire. Mais je dirais que voilà, pendant toute la saison estivale, même en dehors, des fois, il y a des problèmes de vitesse, il y a des problèmes de propreté urbaine, voilà, où les gens ne font pas attention, ils s'estiment qu'ils sont en vacances et que on fait ce que l'on veut. Et c'est valable également pour les résidents. Voilà, donc il faut faire attention. Moi, je suis pas là pour opposer, au contraire. Les résidents et les estivants, tout le monde.
Non, on va apaiser tout ça. Et l'idée, c'est que chacun fasse ça en bonne intelligence. Vous, dans l'accueil, dans l'organisation d'une commune, c'est votre boulot de maire. Les touristes, quand ils se déplacent, bien entendu. Merci beaucoup, Loïc Le Fur, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin en direct sur RMC. Je rappelle que vous êtes le maire sans étiquette de Plobanalec-Lesconil. C'est dans le Finistère Sud. Il est 8h22 sur RMC. Et on passe à l'économie avec Pierre Rondeau. Rebonjour Pierre.
Rebonjour Mathieu.
La Ligue 1 reprend ce soir à 20h45 avec Marseille-Strasbourg en match d'ouverture. C'est sur la plateforme Ligue 1 Plus.
Oui, dorénavant, pour voir Marseille, Paris, Toulouse, Lyon, Lille, Monaco, il faudra obligatoirement être abonné à Ligue 1 Plus. Terminer les matchs éparpillés un peu à droite à gauche. Terminer les matchs parfois sur Bein Sport, parfois sur DAZN, parfois sur Amazon, parfois sur Canal. Dorénavant, c'est 100% de la Ligue 1 sur Ligue 1 Plus.
Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour les fans de foot qui en ont un peu marre de multiplier les abonnements. C'est une bonne nouvelle pour les clubs ?
Alors oui et non pour les clubs. C'est plutôt un pari risqué parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que Ligue 1 Plus, c'est une plateforme dirigée par les clubs de Ligue 1. Autrement dit, ils sont directement actionnaires de la nouvelle chaîne, ce qui pose un problème économique. Avant, quand le foot français était diffusé sur Bein Sport, sur Canal ou sur Amazon, le diffuseur signait un contrat de 3 ou 4 saisons et promettait, quel que soit le nombre d'abonnés, un montant fixe, 250 millions d'euros par an payé par Amazon entre 2021 et 2024, 320 millions d'euros payés par an par Canal sur la même période. Les clubs savaient précisément combien ils allaient toucher de droits TV sur une période d'au moins 3 saisons et pouvaient faire des projets, étaler leur comptabilité, prendre des risques, acheter des joueurs, signer des contrats. Maintenant, ils sont totalement dépendants du succès de Ligue 1 Plus et débutent la saison sans savoir combien ils vont toucher à la fin.
Ce qui, bien sûr, est dangereux pour leurs finances.
Évidemment, les droits TV, c'est 35% moyenne du budget d'un club. Et si on vous dit que vous ne connaissez pas 35% de votre budget, c'est compliqué d'acheter des joueurs, c'est compliqué de signer des contrats, c'est compliqué de valoriser des rémunérations. La saison dernière, Ligue 1 Plus, c'était 1 million d'abonnés payants. Ils en veulent 1,4 million cette saison, mais ils n'en savent rien. Combien en aura-t-il cette saison ? Les clubs avancent dans l'inconnu et ils ont dû s'imposer une cure d'austérité. Rien que sur les transferts, les dépenses cet été ont chuté de 31,7% les dépenses des clubs français, selon le site Transfermarkt. Et donc, cercle vicieux, si on on dépense moins pour le sportif, on est moins bon. Et si on est moins bon, on attire moins de téléspectateurs.
Donc on suivra. On espère que ça ira quand même parce que la Ligue 1
bien sûr.
A besoin de tenir. Ça a été très difficile ces dernières années. Et à l'occasion de la reprise de la Ligue 1, d'un point de vue purement sportif, évidemment que je vous propose une émission spéciale sur RMC, l'After Foot, qui va faire sa rentrée ce soir avec Jérôme Sillon en direct du Vélodrome pour la première rencontre OM Strasbourg. Et à ses côtés, Daniel Riolo, Walid Acharchour. Coup d'envoi d'OM Strasbourg à 20h45. Hein. Vous restez bien sur RMC, aucune raison de débrancher de la journée. Un mot sur les carburants, Pierre.
Tout augmente.
C'est important parce qu'on a beaucoup de Français qui rentrent de vacances ce week-end.
Eh bien, malheureusement pour eux, tout augmente. Hein. Le litre de samplon 95, 2,022 €. Il était à 2,018 € hier. Le gazole, 2,239 €. Il augmente aussi. Le baril de pétrole, ça augmente à 93,66 €. Et le gaz lui aussi à 65,690 €.
Bon, c'est l'heure de retrouver, de se détendre un peu comme je disais.
Comme d'habitude.
Et on retrouve le meilleur d'Arnaud Demange. À tout de suite. Les amis, à Pau, on ne parle jamais de culture dans cette rubrique entre nous, mais ce week-end au cinéma, je vous conseille un truc, vous pouvez aller voir Toy Story. L'histoire, c'est Woody et ses amis qui sont bien embêtés parce qu'une méchante tablette tactile empêche les enfants de profiter de la vraie vie. Elle les accapare trop. Et après Toy Story, vous pouvez regarder RMC Story.
Voilà.
Où tous les matins, un méchant réveil sonne à 2h du matin et empêche Apolline de profiter de la vraie vie. Et aussi Victor, et aussi Élise, et aussi...
C'est des stories nobles.
C'est des stories affreuses.
On en sait un peu plus sur la venue du pape Léon XIV à Paris à la rentrée.
Oui, il va faire une messe géante à Paris en septembre, place de la Concorde et sur les Champs-Élysées. Macron, il va être jaloux. Ça va, hein ? Moi aussi, j'ai réussi à attirer la foule sur les champs. Bon, alors le pape, il a remplacé les gilets jaunes par des chasubles blanches, mais sinon, c'est pareil. Hein ? Jésus, il s'est fait aimer en rendant la vue aux aveugles. Moi, j'ai rendu aveugle des gens qui m'aimaient pas. C'est pareil.
C'est sûr.
Alors, j'espère que les supporters du pape seront moins chauds que ceux du PSG, qui aura pas de casseurs. Vous imaginez tous les chroniqueurs de CNews, Christine Kelly et Philippe Bilger et Philippe Devilliers qui jettent des pavés dans les vitrines. Taïo, Alléluia, Christine, prenez ce pavé et brisons toutes ces vitrines impies.
Oh oui.
Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est très... Oh mon Dieu, c'est très lourd. Je n'arrive pas à lancer ce projectile. Donnez-le-moi. Oh oui. C'est ce boutique hérétique. Les halal aux vêtements. Les Levis. Les Pravda. Je vais allumer un incendie dans un quick halal. Attendez, Philippe, je vais vous aider à allumer cet incendie. Mais Philippe Bilger, vous avez tout éteint mon incendie. Allez, on va tout casser. Sauf la vitrine de Christian Lacroix. Oh oui. Et...
Arnaud Demange, que vous retrouvez quand vous le souhaitez en podcast sur l'application RMC et à partir de lundi en direct, bien sûr, puisque c'est la rentrée. Vous avez entendu à Pau. Dans un instant, la météo et le journal, et puis cet avertissement lancé quand même par l'Inspection Générale des Finances. Sans budget pour 2027, la France s'expose à des risques majeurs et le redressement des comptes publics deviendrait alors impossible. On dirait une bande-annonce de film catastrophe. La France est-elle au bord de la faillite? L'économiste Nicolas Bouzou est notre invité à 8h45 sur RMC et RMC Story. Il est 8h29 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le temps de le dire, il est 8h30. Victor Pourchet avec nous pour un nouveau journal. Bonjour Victor.
Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Un jeune homme tué par balle devant chez lui, mort sous les yeux de sa mère. Le choc des habitants de Maxéville, près de Nancy. La satisfaction sur RMC des associations de patients. Leur colère a poussé le gouvernement à laisser tomber le doublement des franchises médicales. Et puis soirée spéciale en direct du Vélodrome sur RMC. Reprise de la Ligue 1 ce soir. OM Strasbourg avec des Marseillais déterminés à rassurer leurs supporters.
Une violence inouïe et une vive émotion à Maxéville, on est près de Nancy.
Là où un jeune homme de 23 ans a été abattu par balle mercredi soir, victime d'un véritable commando armé au pied de son bâtiment avant de succomber à ses blessures chez lui, devant sa mère. Reportage RMC de Lucille Pascanet.
En bas de l'immeuble, les traces de la fusillade sont toujours visibles.
Les impacts de balles, vous voyez ici et là.
Christophe Chosereau est le maire de Maxéville.
Donc là, ça a tiré très très fort.
La victime de 23 ans était connue de la justice et de la police. Selon le maire, elle venait de rentrer de vacances quand elle a été prise pour cible.
C'est ce qu'on appelle un règlement de compte. Une berline noire occupée de trois individus cagoulés est arrivée dans le quartier aux alentours de 21h. Ils ont tiré de partout, ils l'ont blessé, il est remonté chez lui. Il est décédé dans son appartement devant sa mère. C'est donc une zone d'une violence assez rare.
rare. On n'a pas l'habitude dans ce quartier-là.
Tous les habitants pensent à la famille endeuillée, notamment à la mère et aux trois petits frères de ce jeune homme apprécié. Ils sont nombreux à être inquiets.
Là, c'était vraiment devant chez moi.
Tigane berce un bébé dans une poussette.
On a envisagé de partir parce que là, depuis, on va dire 1-2 ans, c'est chaud, quoi. Quand on a des jeunes enfants, on veut pas qu'ils grandissent dans ça, quoi.
Patricia, elle aussi, a entendu les coups de feu et elle en tremble encore.
On a vraiment peur parce qu'on n'est pas à l'abri que ça recommence. En pleine journée, ça peut très bien arriver quand on va faire des courses ou se promener.
Pour rassurer les riverains, le quartier est sous sécurisation policière renforcée. Elle devrait durer plusieurs jours.
Et le parquet de Nancy a ouvert une enquête pour assassinat. Garde à vue prolongée pour le suspect du meurtre de Sonia Bellina, cette tiktokeuse retrouvée calcinée dans le Gard la semaine dernière. Cet homme connaissait la victime et avait déjà eu affaire à la justice selon nos confrères de BFM TV.
C'est l'info de la soirée, le gouvernement recule sur les franchises médicales.
Il se reste à payer sur les boîtes de médicaments, sur les consultations et le projet de l'exécutif d'en doubler le plafond annuel. Il devait passer de 100 à 200 euros maximum par an. La hausse est bien maintenue, oui, mais aligné sur l'inflation, la mobilisation a payé, nous disait ce matin sur RMC Catherine Simonin. Elle est membre du bureau de France Asso Santé.
Nous nous réjouissons parce que, justement, c'est appuyé sur les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens les plus malades, qui sont en affection de longue durée, principalement, qui accumulent maladie, handicap. Les médicaments, ce sont les médecins qui les prescrivent. C'est que la personne en a besoin. Or, si on laisse trop de reste à charge pour les médicaments, les personnes ne pourront plus les acheter parce que quelqu'un qui a 1200 euros de retraite aujourd'hui est concerné par les franchises.
Autre alerte qui nous vient du monde de la santé. Elle est signée du SAMU de Dordogne, engorgé cet été. Il y a la canicule, il y a aussi les fermetures de certains services d'urgence qui redirigent vers le 15, on en parlait hier. Il y a surtout des renouvellements d'ordonnances, des vaccinations, par exemple, bref, des appels inutiles, Lou Garnier.
En Dordogne, le SAMU fait face à une cascade d'appels et certains motifs ont de quoi étonner. Didier Couteau est le directeur de l'ARS du département.
Notamment dans la journée du 15 août, on a explosé les plafonds, 800 appels. C'est 100 à 150 de plus que ce qu'on observe les autres week-ends. Des demandes pour réaliser des radios, pour lire des radios, des certificats médicaux.
Pour ce type de demande, il rappelle que d'autres interlocuteurs sont à privilégier.
Il y a aussi votre médecin traitant. Il est peut-être en vacances, mais il est peut-être rentré. Il y a aussi des bornes de consultation. Il y a aussi des pharmaciens qui peuvent vous donner un certain nombre de réponses.
Le numéro 15 ne doit être composé que lorsque l'on a un symptôme qui inquiète, selon Agnès Ricaribon. Elle est médecin urgentiste dans le Val-d'Oise et porte-parole de SAMU Urgence de France.
Qui appellent pour des motifs type certificat vont prendre la place de patients qui appellent pour une urgence, avec un risque de mettre en danger ceux qui ont vraiment besoin d'une réponse rapide à une urgence médicale.
37 millions d'appels sont adressés chaque année au SAMU, un service qu'il est important de préserver, selon la porte-parole.
Lou Garnier pour RMC. La Corse repasse en vigilance jaune orage ce matin. Vigilance orange maintenue en revanche dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le sud où il y aura du monde sur les routes, c'est rouge pour les retours de vacances des bisons futés. Orange au nord. Du monde, il y en aura aussi énormément à Paris le 26 septembre prochain pour voir la messe célébrée par le pape place de la Concorde. Il faut s'inscrire. Et c'est une information de nos confrères de BFM TV. 400 000 personnes l'ont déjà fait. Un engouement sans précédent, Ameline Lafchin.
Oui, sur les 500 000 places gratuites pour assister à la messe présidée par le Saint-Père le 26 septembre prochain, il n'en reste sur le site que 100 000, en plus des quelques milliers de places distribuées aux retardataires le jour même. En à peine 10 jours, la plateforme d'inscription en ligne a vu les compteurs s'affoler. Un engouement attendu est constaté dès la première étape du souverain pontife, un discours au Stade de France, complet en moins d'une heure. En plus de Paris, les fidèles ont toujours la possibilité de voir le pape Léon XIV gratuitement à Lourdes et à Metz les 27 et 28 septembre. Mais pour ne pas le louper, l'inscription est là encore vivement recommandée.
Tiens, le pape Léon XIV comprendrait-il la polémique à Fressé des Corbières, petit village de l'Aude où le clocher déchire les habitants. Certains dénoncent des nuisances sonores, même la nuit. Ils ont écrit au maire qui éclaire. Pas question de toucher aux cloches, Jean-Louis. Wilfried Forquès.
Dans ce village des Corbières, la cloche ne fait jamais de pause. Sarah habite à côté de l'église.
À 8h, elle sonne 8 coups et 2 minutes après, elle sonne 8 coups. Et ensuite, à 9h, elle sonne 9 coups et puis après, 2 minutes après, 9 coups. Et puis après 10h, elle sonne 10 coups et puis après 10 coups. Voilà. Je comprends que ça puisse embêter.
Car elle sonne également une fois toutes les demi-heures, soit au total 334 fois par jour, D'où la colère de ce collectif anonyme qui demande à la municipalité de la supprimer. Hors de question, répond Joseph. Selon lui, cela fait partie du patrimoine communal.
Je dis que je suis né ici, que j'ai toujours entendu les cloches et que ceux qui arrivent dans le village doivent s'adapter au village. C'est pas le village à s'adapter à eux.
Et Claudine, une voisine, s'adresse directement au grincheux.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la cloche n'empêche pas de dormir et ne réveille jamais. Quand on commence à l'entendre, c'est parce qu'on commence à se réveiller.
Du côté de la mairie, pas question de supprimer les cloches, comme le tracteur qui passe ou le bruit des cigales. Les cloches ne sont pas des nuisances, mais des bruits de la vie rurale, explique la mairie du village.
Une légende de clocher.
Oui, j'allais oser en faire une autre. Parce qu'une légende du cyclisme français sonne le glas de sa carrière.
Oh,
d'après le journal L'Équipe, c'est Julien Alaphilippe qui va prendre sa retraite à 34 ans. Il vient de terminer son dernier Tour de France cet été. Maillot jaune, souvenez-vous, pendant 14 jours en 2019, mais surtout deux titres de champion du monde à son actif.
C'est une page qui se tourne, franchement, pour le cyclisme français. Les adieux de Julien Alaphilippe.
Ouais, et on dit au revoir à Alaphilippe, mais on dit rebonjour à la Ligue 1 aujourd'hui sur RMC. Reprise ce soir du championnat de France de foot, OM Strasbourg, 20h45 en levée de rideau. Avec un été, un mercato compliqué pour les Marseillais. Des départs importants, mais le nouveau capitaine Timothy Weah veut prouver sur le terrain.
De bien commencer la saison, c'est très important. On sait que Strasbourg, c'est une bonne équipe. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de gagner aussi. Il va falloir jouer à 100%. Et quand on respecte le foot, ça se passe bien. Donc, faut continuer comme ça, faut rester ensemble, même dans les moments difficiles. On sait qu'à Marseille, il y a beaucoup de moments difficiles, mais il faut avoir la mentale et faut pousser. Donc, pour nous, on est prêts. Et j'espère qu'on va bien jouer. J'ai hâte de retrouver le stade.
OM Strasbourg, c'est à 20h45, c'est à vivre sur RMC, c'est une soirée spéciale évidemment pour l'afterfoot en direct du Vélodrome à partir de 23h. Jérôme Sillon, que vous aurez avec vous dans vos oreilles pour le match, sera accompagné de Walid Acharchour, de Daniel Riolo. On va revenir sur la rencontre bien entendu et ouvrir la saison de Ligue 1 qui démarre donc ce soir par ce Marseille-Strasbourg. Les courses
avec le quintet sur l'hippodrome de Cabourg, à 20h15. Pronostic de la Dream Team des courses RMC, son favori, le 8 Kaiser, mais pas d'outsider ce matin parce que le 12 Brothers in Arms est non partant.
Ah, il courra pas.
Et il sera pas là.
Ouais, écoutez, la chanson des
Dream. Vous pouvez miser dessus, mais bon.
Lorenzo est en ligne avec nous. C'est presque pour vous, Victor, puisqu'il est supporter de l'OM.
Ah.
Bonjour, Lorenzo.
Bonjour à tous.
Vous serez devant Marseille-Strasbourg ce soir pour la rentrée.
C'est certain.
Non, mais en fait, vous avez réagi aussi à la chronique de Pierre Rondeau sur l'économie de la Ligue 1. Et vous dites, il faut s'abonner pour une fois. En gros, vous dites pour une fois qu'on a eu gain de cause et qu'il n'y a qu'un seul abonnement pour suivre le foot. C'est ça, Lorenzo?
Bah, écoutez, déjà, il faut saluer le retour de la Ligue 1. On attend ça depuis le mois de mai. Mais c'est vrai que cette saison, elle est particulière parce que, on va avoir qu'un seul diffuseur. Hein. C'était pas arrivé depuis plus de 20 ans, si je dis pas de bêtises. C'est quelque chose de super important parce que pendant plusieurs années les droits étaient répartis entre plusieurs diffuseurs, donc pour un supporter c'est plus compliqué, on doit s'abonner à pas mal d'offres, voilà, c'est quelque chose de, pas forcément tout le monde a les moyens de le faire.
Ben oui.
Et aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, tout est réuni sur les Ligue 1 Plus, donc ça c'est top. Après il y a aussi l'autre côté, pour les clubs, comme dit tout à l'heure Pierre, c'est vrai que c'est plus compliqué pour eux, c'est peut-être un inconvénient.
Alors c'est peut-être plus compliqué pour eux et en même temps il faut si on veut des abonnés, il faut assurer le spectacle, il faut assurer un football de qualité. C'est finalement l'engagement, Lorenzo.
Exactement. Bah, j'espère qu'en tout cas on vivra une belle saison de Ligue 1, mais je pense que ça peut être un modèle qui peut être intéressant. Il faut essayer.
On fera le bilan à la fin de l'année, ça c'est sûr, Lorenzo. Sur RMC, vous ne manquerez rien, que ce soit du foot sur le terrain, l'aspect sportif, mais aussi l'économie du foot. On y tient à notre Ligue 1 et à notre championnat. Merci, Lorenzo, Marseillais de 28 ans, en direct ce matin sur RMC. Et bonne rentrée à tous les fans de foot et aux Marseillais, Strasbourgeois en particulier, ce soir, Marseille-Strasbourg sur RMC. Il est 8h40. Dans un instant, le choix de la rédaction et Patrick Bruel, parti pour chanter. Les 35 dates de sa tournée sont toujours maintenues. Le chanteur est visé par 32 plaintes, mises en examen dans 4 dossiers de violences sexuelles. On est allé à Chartres, première date de la tournée, où le maire ne souhaite pas la venue du chanteur. A tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 8h43, c'est l'heure du choix de la rédaction.
Patrick Bruel prêt à remonter sur scène cet automne. Le chanteur mis en examen pour violence sexuelle qui est visé par une nouvelle plainte pour tentative de viol doit célébrer à partir du mois d'octobre les 35 ans de son album culte Alors Regarde. Une trentaine de concerts sont prévus dans toute la France. Le premier doit avoir lieu à Chartres le 2 octobre prochain, mais le maire, Ladislas Vergne, a d'ores et déjà fait savoir que Patrick Bruel n'est pas le bienvenu dans sa ville pour prendre en considération la parole des victimes. Les habitants, eux, sont plus partagés, Philippine Boulet.
Une petite moue se dessine sur le visage de Bruno, 65 ans, quand on évoque la venue de Patrick Bruel dans sa ville.
Ouais, moi ça me gêne un peu. Tant qu'on n'est pas sûr, les suspicions, c'est toujours embêtant.
32 plaintes déclarées contre le chanteur. Il trouve le sujet délicat.
Je pense pas qu'il soit bienvenu de faire des concerts, quoi. Fait ce qu'il veut, mais bon.
Une gêne qui dépasse d'autres habitants, comme ses amis de longue date, toutes les deux chartraines.
Faut bien qu'il gagne sa vie, donc il n'y a pas de souci.
Les personnes qui le trouvent bien vont le voir, ceux qui ne l'aiment pas ne vont pas, puis voilà, c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut.
Elle serait même prête à y aller.
Bah oui, c'est un bon chanteur, peut venir. À la limite, j'aurai un billet gratuit, j'irai. Tant qu'il n'y a pas de procès, ça n'a rien à voir avec son travail.
Un concert tranquille, en toute impunité, dans leur ville. Pas question pour Stéphanie et sa fille Chloé.
Ça, c'est un sentiment de honte, on ne veut pas de lui. Donc encore moins en première date. Moi j'aime pas qu'on parle de Chartres pour ça. On pourrait parler de Chartres pour autre chose.
Elle regrette amèrement qu'il ne se soit pas mis en retrait le temps qu'une décision judiciaire soit rendue.
Il a plein d'affaires aux fesses. C'est pas tout à fait normal qu'il puisse encore se produire. Je pense que présumer innocent ne veut pas dire innocent. Et du coup forcément dans le bénéfice du doute, il vaut mieux croire les victimes.
Elle préférerait que le concert soit annulé. Et c'est d'ailleurs la volonté du maire de Chartres.
Aujourd'hui il y a eu 32 plaintes. 32 plaintes, c'est considérable. Il n'y a pas de fumée sans feu. Moi j'en appelle vraiment solennellement à Patrick Bruel à ne pas venir à Chartres début octobre pour le Colisée.
Le Colisée, c'est la salle de spectacle de la ville, gérée par la municipalité et la métropole.
Et si il voulait absolument maintenir sa venue, eh bien nous réservons tous les moyens juridiques pour qu'ils ne viennent pas. Des premiers engagements sans doute, mais aucune obligation contractuelle. On va mobiliser très clairement ce moyen pour dire à Patrick Bruel de ne pas venir à Chartres. Qu'il prenne le temps de répondre devant la justice, plutôt que vouloir précipiter sa venue dans une ville comme Chartres et dans cette grande tournée nationale qu'il envisage.
Pour l'instant, le spectacle reste d'actualité et hier soir, les dernières places étaient encore en vente pour la première date de cette nouvelle tournée. Quelques milliers d'autres ont donc été vendues.
Je comprends qu'il et elle aiment les chansons. Après, je crois que la parole des victimes est plus importante.
Pour Anne-Sophie Taulier de l'association féministe En lutte pour nous toutes à Chartres, cette tournée de Patrick Bruel est inacceptable.
Il faut qu'on se prépare à sa venue. Manifestation, c'est sûr que oui. Nous, on n'est pas d'accord en fait pour qu'il ait une tribune. Avec tout ça, comment est-ce qu'il ose encore monter sur scène? Donc c'est vraiment contre lui, je suis en colère.
Le chanteur, lui, a toujours contesté les accusations dont il fait l'objet.
Merci Philippine Boulet, il est 8h47. Avertissement lancé par l'inspection générale des finances. Sans budget pour 2027, la France s'expose à des risques majeurs et le redressement des comptes deviendrait impossible. Est-ce qu'on est au bord de la faillite? L'économiste Nicolas Bouzou nous répond dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 8h48, vous êtes sur RMC, la France est-elle au bord de la faillite? Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous êtes économiste, essayiste, on vous connaît bien, vous avez fondé le cabinet Asterès et vous venez de publier L'éternel sursaut, une histoire confiante de la France. C'est chez XO Éditions et on a besoin de confiance un peu, Nicolas, ce matin. L'inspection générale des finances qui lance une alerte sévère, hein, sans accord sur le budget 2027. Il faudrait une loi spéciale qui prolongerait finalement les discussions, mais ça nous coûterait 15 milliards d'euros et ça empêcherait tout redressement des comptes publics. Est-ce que cette rentrée budgétaire est plus dangereuse que les précédentes?
Ah oui, sans l'ombre d'un doute, parce qu'il s'est passé quelque chose cet été sur le plan économique dont malheureusement on a peu parlé, mais qui est très important pour la France et pour beaucoup de pays, c'est le fait que les taux d'intérêt auxquels les États s'endettent, alors l'État français, hein, mais les États partout dans le monde, ces taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Ça veut dire que la charge de la dette, mécaniquement, les intérêts de la dette payés par un pays comme la France, s'accroissent beaucoup, et donc on est pris aujourd'hui dans une sorte de cercle vicieux qui est une situation financière extrêmement dangereuse. Pour vous donner un ordre de grandeur. Hein. Il y a 3 ou 4 ans, la France s'endettait à 10 ans à des taux qui étaient proches de zéro. Aujourd'hui, on est à 4. Donc c'est un changement de monde complet. Et l'inspection générale des finances, ce sont des gens extrêmement compétents, hein, qui connaissent parfaitement ces sujets, a parfaitement raison. Au fond, de mettre...
Mais c'est quoi, Nicolas Bouzeux, le plus inquiétant, oui, dans ce qu'ils disent, c'est ce niveau de la dette qui fait qu'on s'endette pour plus cher et que ça nous coûte plus cher, oui, à rembourser, ou c'est le fait qu'on n'ait aucune majorité pour faire un budget ?
C'est les deux, en fait. Hein. C'est-à-dire que si on n'avait pas de majorité pour faire un budget dans une situation où on serait pas trop endetté, où les taux ne seraient pas trop élevés, il y aurait pas trop de problèmes. Ça nous ferait un peu râler, on trouverait ça un peu navrant, mais ce serait pas plus grave que ça. Là, comme le dit très bien l'inspection générale des finances, on doit absolument avoir, non seulement avoir un budget pour l'année 2027, bien évidemment, mais on doit avoir un budget qui est un budget sérieux, avec une vraie réduction du déficit. Et je vais vous dire, il y a quand même une vertu dans cette affaire, si on veut voir les choses un peu du bon côté, c'est que je trouve que ça met les politiques, et en particulier les parlementaires, devant leurs responsabilités. C'est-à-dire que là, on va vraiment avoir, pour les parlementaires, un test de responsabilité en grandeur nature. Soit ils arrivent à se mettre d'accord pour une réduction des déficits, et on dira, c'est peut-être pas génial, c'est peut-être pas parfait, mais enfin, chacun a joué son rôle de façon responsable. Soit chacun joue la démagogie, on n'a pas de budget, ou on a un budget nul avec des déficits énormes, et là, c'est vraiment la situation financière de la France qu'on met en jeu.
Donc, oui, alors, aujourd'hui, ça, c'est très juste, on en est vraiment là. Bouzeux, n'importe quelle année, sauf que vous semblez oublier qu'il y a une présidentielle au bout. On, oui, va plus avoir des propositions de dépenses que des propositions d'économie dans les semaines et les mois qui viennent.
Alors, certes, je suis encore un peu en vacances, mais je vous promets que je n'ai pas oublié le fait qu'il y avait une élection présidentielle qui, en effet, est un facteur qui est un facteur, de ce point de vue-là, plutôt, plutôt inquiétant, parce qu'on sait bien que dans les périodes de campagne présidentielle, on va dire qu'on a parfois un peu de démagogie dans l'air. Et donc, quand j'entends certains dire que, ou certaines, qu'on va revenir sur les réformes des retraites, d'autres que finalement la dette, c'est pas grave parce qu'il suffit de pas la rembourser, etc. Je ne suis pas complètement certain de pouvoir vous rassurer sur l'année qui vient, comme vous l'avez demandé au début de cet entretien. Donc, vous avez tout à fait raison. On est dans un climat peu... Bon, qu'est-ce qu'il est, hein ? Voilà, on est une démocratie, il y a une élection, c'est formidable. Mais je crains un peu, si vous voulez, cette tendance à la démagogie dans une année où on a besoin d'être très sérieux. Parce que, pour être tout à fait concret, hein, Mathieu Béliard, si ceux qui nous prêtent de l'argent, on dit les marchés, mais c'est ceux qui nous prêtent de l'argent, s'ils voient un peu partout des propositions qui sont fantaisistes et qui ne sont pas sérieuses, les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et cet effet délétère dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des taux d'intérêt plus élevés, une charge de la dette plus élevée, des déficits plus élevés, ça va s'accélérer. Oui. Donc vous voyez, c'est concret. C'est pas théorique, hein, ce que je suis en train de vous dire.
Mais alors, il y a quand même il y a quand même des pistes, hein, qui sont évoquées. Par exemple, la désindexation au moins partielle d'une partie des pensions de retraite. Ça, c'est une bonne idée. C'est un chantier qu'il faut lancer là à la rentrée.
Oui, je pense qu'on a malheureusement pas vraiment le choix. En fait, cette année, on va colmater, si vous voulez. Donc, on va mettre des rustines. C'est pas génial, hein. C'est absolument pas génial, mais on n'a pas le choix. Mais il faut mettre des rustines. Ça, c'est une grosse rustine. Et à mon avis, il faut malheureusement en passer par là. Parce que les retraites en France, c'est une masse financière absolument gigantesque en matière de dépenses sociales. Mais il faut aussi, puisqu'on est en campagne électorale, comme vous l'avez rappelé, qu'on se pose des questions un peu plus profondes. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on arrive au bout d'un modèle. On voit bien qu'on est... Aujourd'hui, les retraites sont en déficit, la santé est en déficit, l'État est en déficit. Et ça fuit absolument de partout. Donc il faut vraiment qu'on réfléchisse à remettre
les choses. Ça va s'aggraver, Nicolas Bouzeux. On vient de promettre des sommes d'argent pour les victimes de la canicule, des incendies. On promet des sommes d'argent, oui, pour créer des task force sur le cyber. Enfin, on a des pistes d'économie, hein, qui nous arrivent de ci, de là, mais on a aussi beaucoup de pistes, oui, de dépenses nouvelles.
Ben vous avez tout à fait raison. Je ne le dirais pas mieux que vous. C'est-à-dire que plus on a de, alors il y a des dépenses qu'il faut consentir, hein, évidemment, parce que il est clair que dans le domaine de la défense, de la sécurité, de la transition énergétique, etc., on a besoin de faire des dépenses. Donc il faut le faire. Mais ça veut dire qu'il faut faire encore plus d'économies ailleurs. Et c'est pour ça que il faut quand même qu'on se pose des questions un peu sérieuses, mais le gouvernement est en train de le faire, hein. Donc la question de la désindexation des retraites, vous avez raison, la question de la santé, faut s'organiser un peu autrement, parce que sinon, en fait, quel est le risque, pour que ce soit un peu concret pour celles et ceux qui nous écoutent, le risque, c'est qu'on arrive dans une situation où on se dit, mais au fond, on est dans une situation où les marchés ne veulent plus nous prêter d'argent ou nous les prêtent à des taux qu'on ne peut pas payer, et donc on n'a pas d'argent pour payer les retraites à la fin du mois. ou pour payer les médicaments à la fin du mois. Vous voyez, c'est ça le sujet. Hein. Donc c'est pas
aussi un des enjeux du débat rigolo, budgétaire, hein. Bien entendu, du débat de la présidentielle aussi. Il faudra qu'on entende chacune des candidats candidates sur ces questions-là. C'est de notre avenir dont il est question. Cela dit, je retiens aussi votre optimisme, hein, Nicolas Bouzou, l'éternel sursaut, histoire confiante de la France, Nicolas.
Une fois qu'on aura passé cette passe difficile, ça ira beaucoup mieux parce que la France est un pays qui fait parfois de grosses bêtises. C'est un peu ce qu'on est en train de faire en ce moment où on n'est pas très sérieux sur les questions budgétaires. Mais c'est vraiment le pays au monde qui a les capacités de rebond, de sursaut les plus fortes. Donc je suis un petit peu pessimiste à court terme et très optimiste à moyen terme.
Eh ben, on prend Nicolas Bouzou. Bonne rentrée à vous, économiste, essayiste, fondateur du cabinet Asterès. L'éternel sursaut, c'est chez Exo Édition. Merci Nicolas. Alain Marchal est arrivé. C'est l'heure des grandes gueules.
C'est l'heure des GG, bien sûr. Avec Abel Bouilly, avec Zora Bitton, avec Sandrine Pégan. On va parler de cette passe d'armes qu'il y a eu sur les réseaux sociaux entre Marion Maréchal, Bali Bagayoko et Mathieu Pigas sur Français de souche. Est-ce que ça existe ou pas? Est-ce qu'on est Français de souche ou pas? Ou il y a toujours, dans votre lignée, de l'immigration? Voilà, ça, en plus, on sent bien que ça va être un des enjeux, vous voyez, de la présidentielle entre ceux qui prônent la nouvelle France et ceux qui disent non, il y a une France qui est bel et bien historique et qui appartient aux Français.
Je vous regarde, je me dis, les Niçois, Alain Marchal.
Bah, depuis 1860.
Voilà, pas si vieux.
Mais moi, c'est croisé de partout.
La souche n'est pas si vieille.
Mais effectivement. Donc, ça mérite un débat avec vous au 32-16. Et puis ensuite, on a le maire de Chartres qui dit Bruel ne passera pas par Chartres. C'est pourtant la première date de la tournée de Patrick Bruel. Il dit, il n'y a pas de fumée sans feu, 32 plaintes. Je lui demande de réfléchir et il ne viendra pas à Chartres. Est-ce qu'il donne le bon exemple, le maire de Chartres, ou au contraire? Désolé, monsieur le maire, mais il y a le respect de la présomption d'innocence. C'est au 32-16 qu'on en débat, les grandes gueules, c'est jusqu'à midi.